Vous êtes sur RTL.
Julien, bonne journée à vous. Merci. On garde Claire Delhomme pour la météo. Et bienvenue à vous tous.
Je vous l'envoie.
Vous êtes très aimable. À tout de suite. Au milieu de notre matinale d'information, l'armée au garde à vous. Nos militaires rentrent dans la danse du vaccin. Sept hôpitaux débutent aujourd'hui la vaccination. Pour qui, avec quels moyens et quel personnel? Nous attendons les réponses du porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean. Il sera 7h15. Les 5 ans de la République en marche. Tout a commencé le 6 avril 2016. Alba Ventura reçoit ce matin Roland Lescure, le responsable des porte-parole du parti présidentiel, lui-même président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée. Au menu, les 5 ans d'En Marche, bien entendu, l'avenir d'Emmanuel Macron et donc du pays, les régionales et pourquoi pas quelques questions sur Édouard Philippe. Enfin, à 8h20, l'homme des missions difficiles à la mairie de Paris, le premier adjoint Emmanuel Grégoire. Il s'est fait une spécialité du déminage quand les tirs tombent sur la mairie. Au cœur de cet entretien, le procès permanent sur la saleté de la ville. On attend les explications d'Emmanuel Grégoire. Nous sommes le mardi 6 avril 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le sauve-qui-peut des viticulteurs.
Le gel menace leurs raisins. Reportage dès le début de ce journal. L'école à la maison, c'est reparti à partir d'aujourd'hui. Et puis En Marche, astre mort 5 ans après sa création.
La politique, Olivier Bost.
Édouard Philippe, extrêmement loyal et complètement libre, ou alors totalement hypocrite.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Quand mars fait avril, avril fait mars, dit le dicton. Et ça se confirme avec les températures qui chutent de manière assez spectaculaire en comparaison avec la chaleur de ces derniers jours. Dans les vignobles, il faut protéger les bourgeons pour éviter de ruiner la récolte. Reportage de Bertrand Frachon dans le Mâconnais.
À Clessé, près de Mâcon, les viticulteurs comme Gauthier du domaine Guillemot sont sur le pied de guerre. Le mercure pourrait bien descendre jusqu'à moins 5 degrés, température fatale aux jeunes pousses sur la vigne. Alors on prépare la protection de celle-ci.
Alors là, on est en train de passer des préparations de plantes, un mélange de plantes qui va permettre à la vigne de passer ce coup dur et puis de mieux se remettre, même s'il y a des dégâts. Et puis dans le week-end, là, on a posé des bougies pour pouvoir les allumer si vraiment on descend en dessous de moins 2. Ça permet à la fois de réchauffer un petit peu l'atmosphère et de créer un écran de fumée, une petite couverture chaude. Alors par contre, c'est efficace que si on n'a pas de vent.
Ces coups de gel en avril ne surprennent plus ce jeune viticulteur.
Alors, c'est de plus en plus commun. Depuis environ 2016, on est à risque tous les ans. On a eu un coup de gel très important en 2019, à peu près la même période, c'était le 11 avril. On est maintenant sur des printemps très très précoces. Hein. On est en short et t-shirt à la vigne en mars quasiment tous les ans. Avec un retour du froid en avril, ça devient classique.
Ici, le domaine n'est pas assuré contre le gel. Le viticulteur sait qu'il ne va pas beaucoup dormir ces prochaines nuits.
Bertrand Frachon, Claire Delorme, je me tourne vers vous. Cette vague de froid, elle va durer combien de temps, dites-nous?
Elle va durer au moins jusqu'à jeudi. Il va falloir s'attendre encore à des nuits fraîches. Donc ça concerne surtout donc la moitié nord aujourd'hui, particulièrement le Grand Est avec des fortes gelées. Mais ça va gagner à partir de cette nuit, justement, la moitié sud. Donc je vous invite vraiment à la vigilance. Donc c'est à partir seulement de jeudi où ça va se radoucir un petit peu vers la moitié sud. Il va falloir patienter vendredi pour que à nouveau, on rebascule vers des températures à peu près positives.
Claire Delorme, merci.
RTL, il est 7h02 et ironie de la météo, c'est quand il recommence à faire froid que démarre le nouveau confinement.
Fini le week-end de Pâques et les libertés de déplacement. Dès aujourd'hui, c'est chacun chez soi et le retour de l'école à la maison. Courage aux parents, mais aussi aux enseignants qui mêleront, comme ici, à l'école primaire Jacques Prévert de Tourcoing, cours en visio et devoirs. Reportage de Franck Hanson.
Vous avez les documents.
Ils ont de quoi s'occuper pour la semaine.
Des maths, du français, de la géométrie.
Des devoirs polycopiés à faire, des rendez-vous en visio. La directrice enseignante des CM2, Gaëlle Maréco, a donné ses consignes.
Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, vous me contactez grâce à l'espace numérique de travail.
Le matériel a été testé pour les cours à distance. Plus vraiment une découverte pour ses élèves.
Voilà. Tu entends Monsieur Leroux, c'est bon ?
On clique sur le lien, on se retrouve directement avec les profs. Ça fait bizarre. J'aime pas trop, je préfère en classe.
Moi, je fais mes devoirs. Quand il y a une visio, je prends ma tablette, je vis dans ma chambre et je fais.
On n'a pas le choix parce que sinon, les écoles et les classes, elles vont fermer à cause du Covid.
Dans cette école, Jacques Prévert, les enseignants qui se sont pris en main se sentent un peu mieux armés.
On va dire que ça s'est organisé sur un court laps de temps. Dans le cas où on ne prépare en fait qu'une semaine de travail, on arrive pour le moment à distribuer ce qu'il faut. La visio fonctionne, ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis de connexion comme l'an dernier.
L'idéal, ce serait que vous puissiez me le renvoyer
cette semaine. Je pense que là, clairement, ils joueront le jeu. Un petit retour en arrière, mais de quelque chose qu'on maîtrise maintenant par la force des choses.
La cour de récréation devrait à nouveau être remplie dans 3 semaines. L'an dernier, certains enfants avaient décroché après le premier confinement.
Frank Hanson, la France se reconfine et le Royaume-Uni, qui a déjà vacciné près de la moitié de sa population, s'apprête à retrouver un début de vie normale avec la réouverture dès lundi prochain des commerces, des bars et des restaurants. Le Premier ministre Boris Johnson sera au rendez-vous.
On Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously but irreversibly raising a pint of beer.
Voilà, Boris Johnson qui explique que dès lundi 12, il ira boire une pinte de bière au pub en faisant attention, hein, cautiously. Ça fait rêver. Chez nous, en France, pas de retour à la normale avant la mi-mai au moins. C'est en tout cas la ligne d'horizon fixée par Emmanuel Macron qui a laissé entrevoir une réouverture des lieux de culture. Objectif très théorique pour le vice-président du principal syndicat du spectacle musical et de variété, le Prodis. Rien n'est prêt. Aurélien Binder avec Steven Bellery.
La belle affaire, on est dans une économie projetée, c'est-à-dire que l'économie du spectacle vivant ne peut pas redémarrer en 48 heures. On a besoin de 3, 4, 5, 6 mois avant de faire monter sur scène nos artistes. Donc, on n'arrive plus à se projeter. On arrive en avril, vous reprenez le rétro-planning. Déjà, les festivals sont fortement menacés, vous les avez vus, ils annulent les uns après les autres. Nous sommes maintenant focalisés sur la fin de l'automne. On sait bien que septembre va être clairement menacé aussi pour nous, pour des questions de rétro-planning logistique, de production de spectacle. Et on est surtout tous maintenus à cette campagne de vaccination qui, pour nous, est désormais le seul référentiel pour redémarrer nos activités. Le vaccin, aujourd'hui, est la seule possibilité de pouvoir retrouver une vie normale. Donc, soyons pragmatiques, s'il faut se faire vacciner, eh ben, nous nous vaccinerons, en tout cas, c'est notre partie ici. Ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit de se vacciner contre la fièvre jaune pour aller en Afrique, de retrouver donc une liberté sur un territoire où il y a une contrainte sanitaire. Faisons-le sur notre territoire pour retrouver cette liberté. L'Angleterre, les États-Unis le font, Israël l'a fait. Regardons attentivement ce qui se passe en Israël pour qu'on prendre la portée du vaccin.
Alors, sur les vaccins, justement, l'ouverture aujourd'hui très symbolique du vaccinodrome du Stade de France, près de Paris, à Saint-Denis. Objectif 10 000 injections par semaine. Alain Fischer, en charge de la vaccination au gouvernement, vise le cap à court terme des 400 000 injections quotidiennes en France. En bref, à l'étranger, la Corée du Nord qui annonce qu'elle ne participera finalement pas aux JO de Tokyo. C'était pourtant l'un des éléments clés du réchauffement diplomatique opéré il y a 3 ans. Pyongyang ne veut pas exposer ses athlètes au risque de contamination. Voilà pour l'explication. Et puis le bilan qui s'alourdit en Indonésie et au Timor oriental. Au moins 157 morts et des dizaines de disparus dans les inondations et les glissements de terrain générés par un cyclone tropical.
7h06. Dans un instant, cette étrange affaire avec la garde à vue prolongée pour les 4 femmes interpellées à Béziers et impliquées, semble-t-il, dans un projet d'attentat. A tout de suite sur RTL, bonne journée à tous.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Jérôme Florin. 48 heures de garde à vue supplémentaire pour 4 femmes d'une même famille interpellées à Béziers ce week-end.
Une mère et ses 3 filles. L'une d'elles, âgée de 18 ans, fait figure depuis le début de principale suspecte. Thomas Proutot, elle semblait particulièrement déterminée.
Absolument, la jeune femme avait récemment essayé de fabriquer de l'explosif avec les produits chimiques retrouvés dans sa chambre. C'est ce que confie une source proche de l'enquête à RTL. Des produits courants comme de l'eau oxygénée et de l'acétone, mais qui entrent notamment dans la composition du TATP, cet explosif prisé par les djihadistes, relativement simple à synthétiser. La suspecte de 18 ans avait également confectionné plusieurs engins artisanaux sous la forme de bouteilles remplies de billes en métal, des engins reliés à un dispositif de mise à feu piloté par un téléphone portable. La jeune femme semblait donc déterminée à mener une attaque. C'est ce qu'avait d'ailleurs laissé entrevoir dès vendredi soir ses messages sur certains réseaux sociaux. Le contre-terrorisme a choisi de passer à l'acte très vite dans la nuit de samedi à dimanche, avant le jour de Pâques. Des églises de Montpellier auraient en effet pu faire partie des cibles. L'hypothèse reste à confirmer. Également retrouvés dans la chambre de l'adolescente, des documents à l'effigie de l'État islamique imprimés depuis son ordinateur.
Les informations RTL de Thomas Proutot. Gérald Darmanin se rend à Avesnes-sur-Helpe dans le Nord tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur est attendu au lendemain de l'incendie en pleine fête de Pâques. Incendie vraisemblablement criminel de l'église, une collégiale du XIIIe siècle classée monument historique. Les dégâts sont importants, même si la structure n'a pas été endommagée.
Le parti En Marche fête donc ses 5 ans, mais sans gâteau ni bougie. Hein.
L'heure n'est pas à la bamboche. Depuis l'enthousiasme des débuts, il y a eu certes l'élection d'Emmanuel Macron, mais aussi les gilets jaunes et surtout la crise sanitaire et le mouvement censé incarner le nouveau monde est devenu finalement, William Galibert, un parti comme les autres avec ses tiraillements et ses doutes.
Oui, il faut dire que la promesse initiale en ce 6 avril 2016 était assez intrigante.
Un mouvement politique nouveau, qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle.
Mais plus le temps a passé et moins on a vu la différence. Même querelle, même division étalée en public sur la laïcité ou sur la sécurité. Une quarantaine de députés déçus a d'ailleurs quitté le groupe à l'Assemblée. Quant aux adhérents en un clic, ils ne font pas un bataillon de militants prêts au combat. Et beaucoup regrettent un manque de débat sur certains sujets de société, tout comme un fonctionnement très vertical. Verdict assassin d'un ministre, LREM, ça sert à distribuer des tracts. Tout le reste, c'est Emmanuel Macron. L'un des fondateurs d'En Marche l'avoue avec un peu plus de rondeur. Le modèle qu'on a créé est obsolète. Si on ne surprend pas à nouveau pour 2022, on est foutu. Se réinventer donc avec une nouvelle structure, toujours à l'étude, avec de nouveaux locaux et surtout avec un pactole de près de 20 millions d'euros de dotation publique par an. En Marche est peut-être devenu un parti comme les autres, mais sa santé financière avant d'aborder la présidentielle a de quoi faire des jaloux.
William Galibert.
Et à 7h40, la parole de Roland Lescure, qui est responsable des porte-parole de La République En Marche. Il répondra aux questions d'Alba Ventura. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 12, le 13, le 3, le 7, l'As. Et le 2, dernière minute, le 7, Max la fripouille.
Ça vous plaît ça
hein? Ah oui, Max la fripouille.
Tant mieux, moi aussi, Max la fripouille. Je vais peut-être mettre un petit billet sur ce choix.
Bien la fripouille.
Allez hop, c'était le journal de Jérôme Florin. 7h12, La Politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Demain donc, je dis bien demain, sort le livre de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avec son ami et député européen Gilles Boyer. Une question ce matin, Édouard Philippe, est-il loyal et libre comme il l'affirme ou peut-être un peu hypocrite Olivier Bost?
Oui, parce que la question c'est quel message veut faire passer Édouard Philippe avec son livre et toutes ses apparitions médiatiques?
Mystère.
Qu'il ne veut pas qu'on l'oublie avant sa ministre, qu'il garde toutes les options ouvertes pour 2022, se demande un autre. Qu'il n'a pas digéré le divorce avec le président, se questionne un élu républicain. Ou alors qu'Emmanuel Macron ne pourra jamais faire sans lui, s'interroge un responsable de la majorité. Et très franchement, en lisant et en regardant ces interviews, aucune réponse n'est jusqu'ici évidente. Mmh. Au contraire, ces interventions sèment un trouble sans doute volontaire. Sur France 2, dimanche soir, nous avons même vu l'ambiguïté de la démarche d'Édouard Philippe dans ses hésitations. La question était pourtant simple. Avez-vous dit « je ne serai pas candidat à la présidentielle » sauf si Emmanuel Macron ne l'était pas? Écoutez cette longue hésitation.
Je crois que je n'ai pas le sentiment de prononcer ces phrases. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que je ne m'exprime pas sur ce sujet.
Donc elle n'est pas de vous cette phrase?
Je ne crois pas l'avoir dit. Je ne crois pas, non. En tout cas, je ne suis pas sûr de l'avoir dit publiquement. Peut-être...
Pas publiquement.
Ouais, je ne sais pas.
Je n'ai pas le sentiment de prononcer ces phrases-là. Nous tenons un moment de vérité. Édouard Philippe est-il vraiment sincère vis-à-vis d'Emmanuel Macron?
Ben vous avez une réponse, Olivier?
Alors, pour tenter d'y répondre, il faut s'arrêter un instant sur la situation dans laquelle se trouve Édouard Philippe. Il est maire du Havre. Après la divine surprise d'avoir été choisi comme Premier ministre par Emmanuel Macron en 2017. Mais en 2022, que peut-il faire? Comment, quelque part, renouveler l'exploit inattendu? L'un de ses anciens ministres le voit chercher à réussir quelque chose comme François Bayrou en 2017, le soutien décisif. Et c'est compliqué. Pour ça, il ne peut être ni trop près ni trop loin, ne peut soutenir Emmanuel Macron ni trop tôt ni trop tard. C'est ce qui se voyait sur France 2, ce difficile positionnement que pas mal de téléspectateurs, disons circonspects, ont ressenti.
Mais qui sont ces téléspectateurs si sensibles?
Ils se trouvent dans l'entourage d'Emmanuel Macron, bien entendu, comme chez ses anciens amis chez Les Républicains. Tout le monde, en fait, n'a pas apprécié le moment sur France 2, qualifié de space par un ministre, de complètement raté par un responsable LR. Vu de l'Élysée, le président sait pouvoir compter sur Édouard Philippe pour la suite et il n'en doute pas, assure l'un de ses conseillers. Son ancien Premier ministre ne varie pas ce matin dans le quotidien Le Figaro. Il a été extrêmement loyal, explique-t-il, comme si ça avait été pénible. Oui. Et il est complètement libre, pour ceux qui n'auraient pas compris. Édouard Philippe est bien décidé à cultiver une ambiguïté dont il n'est pas prêt de sortir, dont il ne peut pas sortir. Et il va falloir s'y habituer, ça va durer.
Olivier Bost, on vous retrouve sur RTL.fr et je rappelle à nos auditeurs que c'est bien Roland Lescure, le responsable des porte-parole du parti présidentiel, qui sera l'invité d'Alba Ventura à l'occasion des 5 ans de la création de La République En Marche. Dans un instant, direction Marseille, où nous attend notre correspondant Étienne Baudu. Nous ferons le point sur l'épidémie dans le Sud-Est avec les tout derniers chiffres et nous serons aussi avec Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des armées, pour évoquer le démarrage ce matin même de la vaccination dans nos hôpitaux militaires. Garde à vous, vous pouvez fumer. Enfin non, surtout pas fumer, bien entendu.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h17, toute la semaine avec notre brigade de l'actualité, nous faisons le point sur la pandémie avec les chiffres, les enjeux du moment. Et ce matin, nous rejoignons Étienne Baudu du bureau RTL de Marseille. Bonjour Étienne.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
La région PACA est l'une des plus impactées par la crise sanitaire. La ville de Nice, par exemple, a été touchée dès la fin février par la mesure de confinement le week-end. En revanche, Marseille est passée à travers les gouttes. Étienne, la région n'est donc pas touchée partout de la même façon et on commence par le taux d'incidence.
Effectivement, avec deux grandes villes, hein, Nice, 350 000 habitants à l'est, Marseille, 865 000 à l'ouest, et deux trajectoires différentes. Nice, vous le disiez, a été l'une des premières villes à être frappée d'un confinement les week-ends à partir du 27 février. Le taux d'incidence, vous savez, le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, oui. Ce taux était à l'époque très haut, hein, dépassant les 630 cas. Depuis, les mesures semblent avoir produit leur effet, puisque 5 semaines plus tard, ce taux est descendu à 453 cas. En revanche, à Marseille, le taux d'incidence, lui, est monté plus lentement, mais finalement beaucoup plus sûrement, puisqu'aujourd'hui, le taux d'incidence marseillais pointe à 559 cas. La situation n'est pas bonne à Marseille.
Voilà, je rappelle qu'il s'agit de la circulation du virus. Étienne, quelle est la situation dans les hôpitaux, et plus particulièrement dans les services de réanimation? Là aussi, on remarque une différence?
Oui, la même différence. Si on regarde par exemple le taux d'occupation des lits en réanimation, il est plus de 90% ici dans les Bouches-du-Rhône, contre 79% dans les Alpes-Maritimes. Et puis il faut entendre surtout ce que disent les responsables de ces hôpitaux à Nice, oui. Au CHU. On explique que la situation se stabilise, voire s'améliore même, si on reste très prudent. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de transfert de malades la semaine dernière. À Marseille, par contre, on est plus inquiet. Un responsable de l'APHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, espérait d'ailleurs que les mesures prises par le gouvernement seront efficaces car ils n'arrivent plus à recruter de personnel et donc il sera de plus en plus difficile d'ouvrir de nouveaux lits. La semaine dernière, par exemple, 3 patients ont dû quitter la cité phocéenne pour être transférés à Cahors et à Toulouse.
Où en êtes-vous de la vaccination ?
Idem, à Nice, les mesures de confinement précoce fin février se sont accompagnées d'une campagne de vaccination importante et les résultats sont là aussi, puisqu'en dehors de la Corse du Sud, les Alpes-Maritimes ont le taux de vaccination le plus important de France, avec plus de 19% de la population qui ont reçu au moins la première dose, contre 14% dans les Bouches-du-Rhône, malgré l'effort des marins-pompiers qui, à Marseille, au stade Vélodrome, vaccinent à tour de bras près de 2700 personnes par jour la semaine dernière.
Alors justement, vous nous parlez des marins-pompiers, Étienne, qu'en est-il de leur prévisions par rapport aux fameuses eaux usées qu'ils analysent partout dans la région, d'ailleurs.
Oui, là aussi, le constat est le même. À Nice, la situation semblerait se stabiliser dans les jours qui arrivent. Le pic de la contamination pourrait même avoir été passé. En revanche, à Marseille, la carte est rouge sur toute la ville. La marée ici monte inexorablement et le pic pourrait être atteint dans les 2 semaines qui viennent. Enfin, les marins-pompiers suspectent même que le variant anglais qui submerge la ville pourrait à son tour avoir déjà muté.
Merci beaucoup Étienne Baudu du bureau RTL de Marseille. Nous allons continuer à faire le tour des régions françaises toute la semaine. Mais tout de suite, mobilisation générale de l'armée qui, elle aussi, ouvre 7 centres de vaccination aujourd'hui, l'un à Marseille, un à Toulon. En région parisienne, c'est à Clamart et Saint-Mandé, ainsi qu'à Metz, Bordeaux et Brest. Bonjour Hervé Grandjean.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du ministère des Armées. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. L'armée se mobilise en ouvrant ses nouveaux centres. Comment fait-on pour venir se faire vacciner dans l'un des 7 centres?
Alors écoutez, c'est la même procédure que pour n'importe quel autre centre de vaccination. Les Français prennent rendez-vous sur la plateforme Doctolib et en fonction de l'endroit où ils habitent, ils peuvent se voir infecter un créneau de vaccination dans un hôpital militaire. Là, nous avons pour cette semaine 7 hôpitaux, donc vous l'avez dit, qui sont ouverts à la vaccination. Ça représentera à peu près 1000 vaccinations par jour et par hôpital. Donc sur l'ensemble d'une semaine, ce sont 50 000 Français qui se font vacciner par des militaires.
Ce sont les mêmes conditions d'éligibilité que pour les autres centres. Dit autrement, c'est pour les plus âgés ou déjà pour tout le monde?
Exactement, ce sont pour les plus de 70 ans ou pour les personnes de plus de 50 ans avec des comorbidités.
Qui nous vaccine et est-ce que vous avez bien reçu vos doses ?
Alors, ce sont des personnels militaires du service de santé des armées qui vaccinent. Nous avons dans chacun de ces hôpitaux des équipes de 70 personnes qui sont là pour accueillir le public et les patients avec un processus d'accueil, de filtrage, ensuite d'administration de la dose. Et tout cela est assuré par des personnels du service de santé des armées qui sont des militaires.
Quel sérum allez-vous utiliser ?
Alors, nous sommes agnostiques sur le type de sérum, et ce sont les agences régionales de santé qui nous livrent les doses, mais ce sera a priori, en tout cas pour les premières semaines, des vaccins Pfizer qui seront administrés.
Le personnel soignant qui travaille avec vous a-t-il été vacciné ?
Alors, nous suivons pour la vaccination des militaires et des personnels du ministère des Armées exactement la stratégie gouvernementale, donc en fonction effectivement de vos métiers. Donc nous avons un certain nombre de soignants qui ont déjà été vaccinés, à peu près 25% de nos soignants ont été vaccinés, ou en fonction de votre âge ou de votre comorbidité, si vous êtes militaire, vous pouvez être vacciné, sinon on suit rigoureusement la stratégie gouvernementale.
Mais pardonnez-moi, tous nos militaires ne sont pas vaccinés. J'ai le souvenir de mon service militaire où là je peux vous dire que nous étions vaccinés à l'arrivée.
Alors, on a des personnes qui sont des personnes jeunes, qui sont des personnes athlétiques. Donc, on a vacciné certaines populations bien ciblées qui faisaient des missions très particulières. En l'occurrence, les marins du Charles de Gaulle et les marins des bateaux qui escortent le Charles de Gaulle, qui font une mission en ce moment très longue en océan Indien, en Méditerranée, se sont fait vacciner tout simplement pour pouvoir faire les escales techniques dont ils ont besoin pour continuer leur mission. Et d'autre part, les marins qui sont embarqués sur les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins ou sous-marins nucléaires d'attaque, là aussi pour des raisons que tout le monde peut comprendre, on ne peut pas interrompre une mission de ce type, se font vacciner. Sinon, on suit rigoureusement la stratégie du gouvernement en matière de vaccins.
Alors, vous avez aussi des possibilités de prise en charge pour la réanimation, notamment dans vos hôpitaux militaires, j'allais vous dire traditionnels. Est-ce que là aussi, tout est au point pour la prise en charge ?
Alors, en matière de réanimation, si c'est bien de cela qu'on discute, nous avons, depuis le début de la crise, donc depuis un an, accueilli d'ores et déjà 1400 patients en réanimation. Au moment où on se parle, on a 90 lits de réanimation qui sont ouverts. On a pu ouvrir ces lits parce qu'on a déprogrammé un certain nombre d'opérations courantes, mais on se tient prêt, parce que le président de la République et la ministre Florence Parly nous l'ont demandé, on se tient prêt à augmenter ce nombre de lits d'à peu près 10% dans les jours qui viennent. Nous avons aussi des capacités mobiles de réanimation. On se souvient de l'effort qui avait été fait à Mulhouse avec la mise en place d'un hôpital de campagne. Très récemment, à Mayotte, nous avions 10 lits de réanimation qui étaient armés par des personnels du santé des armées. En ce moment, la situation s'améliore à Mayotte, donc nous avons démonté ces 10 lits mobiles de réanimation à Mayotte qui sont en train d'être acheminés vers la métropole et qui pourront être déployés ailleurs en France, là où c'est le plus utile.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle les deux chiffres importants que vous nous avez cités. 50 000 injections par semaine dans les 7 en l'occurrence, centres de vaccination qui sont ouverts dès aujourd'hui. Et vous allez porter à 100 le nombre de lits de réanimation dans vos hôpitaux. Merci beaucoup Hervé Grandjean d'avoir pris la parole. Vous êtes le porte-parole du ministère des Armées. Dans un instant, un point météo avec Claire Delorme. Bonjour Claire.
Bonjour Yves.
Nous allons prendre des nouvelles.
RTL Matin, Yves Calvi.
Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il est temps de découvrir votre pépite musicale du jour, s'il vous plaît.
Alors j'avais envie ce matin d'écouter avec vous la voix de Jacques Higelin. Higelin, le baladin, nous quittait le 6 avril 2018, il y a donc 3 ans, jour pour jour. Parmi ses maîtres en poésie et ses modèles en démesure, il y avait Charles Trenet. Higelin a toujours vagabondé dans son univers. Enfant, il mettait un chapeau de forme et il chantait du Trenet pendant les entractes dans les cinémas de la ville de Chelles, accompagné par son père qui était cheminot et pianiste amateur. Et ce n'est qu'une cinquantaine d'années plus tard, au printemps 2005, que Jacques Higelin avait décidé, poussé par son manager, de partir en tournée avec les chansons de Charles Trenet. Une récréation, Higelin s'emparait des mots et des notes de Trenet avec audace et panache. « Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous », chantait Trenet. La suite avec Jacques Higelin sur scène, c'est notre pépite du jour.
Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de vous, le bonheur. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Trouvez-le, il est un peu partout. Alors tu vas où, toi? Je ne sais pas. Où? Mais là, exactement, à cet endroit précis, où le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil l'attend ici-bas. Chacun pour soi, chacun doit t'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui.
La lune n'est pas là et le soleil. Papa dit qu'il l'a vu. Papa dit qu'il l'a vu. Papa dit qu'il l'a vu. Ça. Lui.
Le soleil et la lune par Jacques Higelin, l'autre fou chantant sur la scène du Trianon.
C'est lui au piano.
Bien sûr, c'est lui qui est au piano.
Donc c'est fort,
hein. Oui, oui. En 2005, cette série de concerts était magique. L'album Souvenir existe, il s'appelle Higelin Enchante Traînée. Le disque, bizarrement et malheureusement, devient assez rare parce qu'il n'est pas disponible en streaming ni en téléchargement. Higelin disait que Traînée lui avait fait découvrir les petits oiseaux, les fleurs, le sentiment amoureux et le ciel bleu.
Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend ici-bas. Chacun pense à chacune, chacun va t'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Et toujours lui, toujours lui.
Merci Anthony de nous avoir donné autant de fraîcheur et de peps pour démarrer cette journée. On retrouve bien entendu votre pépite à tout moment en podcast via l'appli RTL. À demain.
À demain.
Papa dit qu'il l'a vu ça.
Et les grosses têtes vous donnent rendez-vous cet après-midi dès 15h30 avec Laurent Ruquier. Ce matin, c'est Pierre Palmade qui se confie sur ses lectures avant de venir aux grosses têtes.
Oui, monsieur Palmade.
Non, vous savez qu'à cause de vous, je commence à lire les pages football du Parisien.
C'est pas vrai.
Si, si, si. Et là, aujourd'hui, je sais que quelqu'un qui s'appelle Cheno est parti du PSG. Il est en D2 en Roumanie. C'est la première chose que je fais sur le football de ma vie. J'attends que la question tombe. Hein.
Alors là, vous êtes tombé sur l'article le moins passionnant des pages sportives. On ne connaît pas très bien ce joueur.
Je balbutie.
Et qu'est-ce que vous avez lu d'autre dans le Parisien qui pourrait nous servir?
Attendez, j'ai un quart d'heure à apprendre chez nous, D2, Roumanie. Et une petite info aussi sur un risque de reconfinement que j'ai lu aussi.
Cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, Pierre Palmade, Bernard Babi, Isabelle Mergault, Christine Bravo, Caroline Diamant et Ariel Dombal qui vous attendent de pied ferme. Bonjour Jacques-Claire Delorme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il fait de plus en plus froid, expliquez-nous tout ça.
Exactement, ce sera surtout des gelées mordantes qui vont concerner la moitié nord aujourd'hui. On a relevé d'ailleurs ce matin au lever du jour moins 9 degrés à Markstein dans le Haut-Rhin ou encore moins 5 degrés à Mout dans le Doubs. Et donc ces gelées, elles vont gagner en tout cas la journée de demain dans toute la France. Mais on y reviendra. Côté ciel, ça sera surtout de l'instabilité qui sera admise au nord et à l'est avec donc des giboulées sous forme de neige mêlée et de grésil, ça sera très local, je vous rassure. Partout ailleurs, un ciel en revanche beaucoup plus variable avec même des éclaircies vers la façade atlantique, du soleil évidemment en Méditerranée mais au prix du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler dans leur domaine, fort encore 520 km/h, mais ce vent il va faiblir au courant de la journée. Par contre, il va se mettre en place à l'intérieur des terres, un vent de nord-ouest qui va accentuer cette sensation désagréable de froid. Et puis dernier point, les Pyrénées vont rester aussi bien encombrées avec les résidus de la perturbation de la veille. Beaucoup de nuages, de la pluie, de la neige en altitude. Et puis côté température, pas plus de 10 degrés dans la moitié nord, entre 9 et 15 degrés pour la moitié sud. Et on maintient, allez, un petit 17 degrés près de la Méditerranée.
Mais volontiers, il fait frais néanmoins. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 6 avril. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence par cet incendie qui a dévasté hier soir la collégiale d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Il y a eu 2 départs de feu, sans doute un incendie volontaire en plein week-end de Pâques. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend sur place ce matin. Cette église est classée monument historique. La structure n'a pas été endommagée, mais les dégâts sont importants. Écoutez Sébastien Seguin, le maire d'Avesnes-sur-Helpe.
Il n'y a pas d'électricité et de cierge à cet endroit. Apparemment, il y aurait 2 départs de feu. Tout le côté droit de l'hôtel de la collégiale est parti en fumée, quoi. Tout a brûlé. Il y a justement 4 grands tableaux qui ont brûlé et toutes les chaises et l'hôtel qui se trouvent à cet endroit. C'est triste de voir ça.
Le maire d'Avesnes-sur-Helpe au micro RTL de Sébastien Rouxel. 48 heures de garde à vue supplémentaire pour la jeune fille de 18 ans soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat dans l'Hérault. Elle a été interpellée dimanche à Béziers avec sa mère et ses sœurs. Selon les informations d'RTL, les policiers ont découvert chez elle tous les éléments permettant de fabriquer une bombe. La cible était peut-être une église de Montpellier.
7h32, question. Et si vous deveniez propriétaire à Paris à moitié prix, c'est la promesse du bail réel solidaire qui est lancée aujourd'hui.
Des ventes à 5 000 euros le mètre carré. carré. Alors, on ne va pas dire que c'est donné, non. Mais c'est deux fois moins que les prix habituels. Comment est-ce possible? Explication de Maëlle Bernier de Meilleurtaux.com.
L'idée de ce bail solidaire, c'est de vendre uniquement les murs. C'est-à-dire qu'on considère que plutôt que d'acheter foncier et murs, vous allez acheter que les murs. Et c'est ce qui permet de mettre des logements en vente à 5000 euros du mètre carré à Paris, alors qu'on sait qu'on est en moyenne plutôt à 10 000 aujourd'hui sur la capitale.
Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
On a envie d'en savoir plus, hein. C'est quoi l'idée? On est propriétaire ou on ne l'est pas?
J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, vous êtes propriétaire des murs, des pierres, vous achetez les briques, voire le toit de votre appartement. Mais le sol, il n'est pas à vous. Si en creusant, vous trouvez un trésor enterré au fond du jardin, ce ne sera pas le vôtre. En fait, le terrain sur lequel est construit votre logement, vous allez le louer. En plus, vous continuez à verser une petite redevance de 2,50 euros par mètre carré à la ville de Paris, uniquement pour le sol.
Et alors, est-ce que malgré tout, ça permet de se constituer un patrimoine?
Ben là encore, oui et non. Quand vous achetez votre appartement, c'est pas cher, mais c'est limité dans le temps pour une durée de 99 ans. Et si jamais vous voulez le revendre, n'imaginez pas faire une plus-value de folie. Vous le revendrez uniquement à prix cassé. Enfin, dernier élément qui a de quoi refroidir pour cette bonne idée sur le papier, en cas de décès, les enfants peuvent hériter, mais à condition de ne pas avoir des revenus trop élevés, s'ils dépassent un plafond de revenus, ils doivent se séparer de l'appartement.
Merci, explication RTL signée Anaïs Bouissou. Nous sommes à l'ère de la mobilité douce, vélo, trottinette, hoverboard, mais mobilité douce ne rime pas forcément avec sécurité. Une étude AXA montre que les adeptes de la trottinette prennent tous les risques. 40% ne connaissent pas précisément la réglementation. Précision d'Éric Lemaire, le président de l'association AXA Prévention.
On a l'impression que lorsqu'on est sur une trottinette, on n'est pas soumis au code de la route. Et comme les gens ne le savent pas, eh ben ils continuent à rouler sur les trottoirs, à rouler trop vite. Et puis surtout, on a vu que 78% téléphonent au volant. Et puis quand on regarde l'alcool, c'est terrible parce que 49% avouent conduire leur trottinette en ayant bu plus de 2 verres d'alcool. C'est quand même extrêmement massif. Aujourd'hui, on est à près de 2 millions de ce type d'engins en France. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des comportements extrêmement inquiétants aujourd'hui quand on conduit une trottinette électrique.
Éric Lemaire au micro RTL d'Alice Marouf. À l'étranger, Vladimir Poutine pourrait rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036, autrement dit jusqu'à l'âge de 83 ans. Le président vient de signer un texte de loi qui lui permet de se présenter pour deux nouveaux mandats. Il aurait dû théoriquement se retirer en 2024. Il est aux commandes depuis l'an 2000 tout de même. Et puis aux États-Unis, des témoignages accablants pour Derek Chauvin, jugé actuellement pour la mort de George Floyd. Le chef de la police de Minneapolis s'est totalement désolidarisé de son ancien agent. Il estime notamment que la position qu'il avait adoptée genou sur le cou de George Floyd n'aurait pas dû persister alors qu'il n'y avait plus de résistance.
7h35, on en vient à la belle histoire de Colette qui va peut-être bientôt décrocher un Oscar à l'âge de 92 ans.
Colette Marin-Catherine habite à Caen. C'est une ancienne résistante, ancienne déportée. Son frère est mort dans le camp de Dora en Allemagne. Et une jeune historienne lui a consacré un documentaire qui sera donc en compétition le 25 avril à Los Angeles.
Jean-Pierre, il est vraiment sorti de sa tombe grâce au film. Il y a des moments difficiles. Alors, personnellement, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je ferais si le soir du 25 avril, si on sent l'Oscar, attendez, le 25 avril, c'est aussi mon anniversaire. Alors, je pense que je prendrai un petit dessert un petit peu plus fantaisiste que d'habitude. Et le soir, je ferai comme d'habitude la vaisselle avant d'aller me coucher. Mais je vois pas l'Oscar, ça ne m'apporte rien. Ça fait deux, trois fois que je rencontre des gens qui me disent « Ah, voilà l'héroïne !» Je ne suis pas une héroïne.
Ouais, on souhaite bonne chance à Colette au micro RTL d'Esteban Pinel. Puis un événement pour tous les amateurs de rugby. À partir d'aujourd'hui, on peut acheter des billets pour la Coupe du Monde, notre Coupe du Monde chez nous en France, dans un peu plus de deux ans. Il y a trois semaines déjà, il y avait eu une première mise en vente restreinte, un succès incroyable. Alors aujourd'hui, à partir de 18h, le directeur général de cette Coupe du Monde, Claude Hatcher, s'attend à un rush phénoménal.
On est confiant, on a un peu le trac. Tu sais, c'est comme un match de rugby. Avant de rentrer sur le terrain, on est bien sur nos appuis. on attend la charge dès 18h, en sachant que si la phase de vente se déroule comme les deux premières, c'est 3000 billets à la minute, plus de 40% dans le monde entier hors France. Ben, le 7 avril, on aura vendu 1 million de billets.
Claude Hatcher au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Match d'ouverture le 8 septembre 2023 entre le 15 de France et les All Blacks.
Mais oui,
sûr.
Ça fait rêver aussi parce qu'on espère que la pandémie sera derrière nous.
Oui, on ira au stade, ce sera
nous
chouette.
Nous sommes bien d'accord. C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. Il est 7h37. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Un impôt mondial sur les grandes entreprises serait à l'étude.
Oui, Yves. Et contre toute attente, cette proposition vient des États-Unis qui nous ont habitués à davantage d'individualisme, pour dire les choses gentiment. Absolument. Alors, pourquoi sont-ils si coopératifs? Est-ce qu'on peut y croire? Réponse dans un instant.
Vos explications dans un tout petit moment sur RTL pour l'Angle Éco.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, L'Angle Éco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Janet Yellen, c'est la secrétaire au Trésor des États-Unis, a fait hier une proposition révolutionnaire au sens premier du terme et c'est à la veille d'une réunion internationale.
Oui, elle voudrait en effet créer un taux plancher pour l'impôt sur les bénéfices des entreprises, qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, au plan mondial. Autrement dit, un pays n'aurait pas le droit de fixer son impôt en dessous de ce pourcentage minimal. Alors qu'aujourd'hui, la concurrence fiscale, oui, c'est l'un des éléments les plus déstabilisants pour l'économie. Parce qu'il existe des paradis fiscaux, généralement de petits pays qui n'ont que peu de dépenses, qui proposent donc des taux très faibles pour attirer les entreprises qui s'y domicilient. C'est le cas des Bahamas, par exemple, de l'île de Jersey, ou, au sein même de l'Europe, de l'Irlande et du Luxembourg. Deux pays qui ont d'ailleurs attiré les Amazon, Apple et autres GAFA pour y taxer faiblement leurs bénéfices au détriment des pays voisins.
Alors, pardonnez-moi, mais on se dit, mais comment n'y ont-ils pas pensé plus tôt ?
C'est une vieille idée, c'est vrai. Mais même l'Europe n'est pas parvenue à la mettre en œuvre en son sein, sauf pour la TVA, où elle impose des fourchettes pour les taux. Tout simplement parce que ça heurte la souveraineté des États qui, chez nous au moins, n'ont plus guère de levier économique à cause de l'union monétaire, qui a tout mutualisé. Il n'y a plus que l'impôt. Et souvenez-vous de l'Irlande qui était effondrée après la crise de l'euro, qui tenait mordicus à son taux d'imposition à 12,5%, le plus faible de l'union, malgré la pression de ses voisins, qui d'ailleurs lui prêtaient de l'argent. En plus, bon, techniquement, ça serait compliqué parce que harmoniser les taux, c'est une chose, mais il y a bien d'autres paramètres. Qu'est-ce qu'on taxe exactement ? Quelles sont les déductions, les réductions ? On pourrait donc se mettre d'accord, oui, sur un taux sans pour autant régler le problème.
Alors, ça veut dire que cela ne va pas se faire, si je résume.
Écoutez, la France, qui a le taux le plus élevé des grands pays, est l'un des plus élevés en Europe. On est à 28% plus 3,5% de contribution sociale. La France aimerait bien que ça se fasse, justement pour ne plus souffrir de la concurrence des autres.
Oui.
Et ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis sont sur le point d'être dans la même situation. Parce que s'ils font cette proposition, c'est parce qu'ils s'apprêtent, eux, à monter leur impôt sur les sociétés de 21 à 28% pour financer le gigantesque programme de relance de Joe Biden. Ils voudraient donc que tout le monde les suive.
Ah oui. Pas très sérieux alors cette proposition ?
Elle est intéressante quand même,
oui,
pour deux raisons. Un, elle signale le renversement de tendance mondiale. Il y a 40 ans, la révolution libérale avait commencé par la baisse des impôts, oui, initiée justement par les États-Unis et par le Royaume-Uni encore avant. Aujourd'hui, l'un et l'autre de ces deux pays remontent les prélèvements et sur les entreprises et sur les individus les plus fortunés. Le monde entier va probablement suivre. C'est un nouveau cycle idéologique qui commence, on le dit d'ailleurs souvent à ce micro. Deux, cette proposition de l'administration américaine aux autres pays signale quand même un changement de ton, oui, par rapport à l'ère Trump, hein, et par rapport à son unilatéralisme. Et c'est plutôt de bon augure pour la fameuse taxe GAFA, discutée au sein de l'OCDE. Ces GAFA, leaders des nouvelles technologies, grands gagnants de l'économie sans contact imposée par la pandémie, vont sans doute rentrer dans le rang fiscal.
Et on va observer tout cela grâce à vous. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve bien entendu aussi sur le site rtl.fr. Il est 7h43. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La République En Marche a 5 ans aujourd'hui, alors vous vous doutez bien que l'heure n'est pas à la fête. Nous allons en parler avec l'un des premiers marcheurs, Roland Lescure, président de la Commission des affaires économiques et porte-parole de LREM.
A tout de suite avec Roland Lescure.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord et responsable des porte-parole de La République En Marche.
Bonjour Roland Lescure.
Bonjour Alba Ventura.
Alors cela fait 5 ans qu'En Marche a été créé. Un truc, un mouvement de jeunesse, avait dit Emmanuel Macron à François Hollande, histoire de le rassurer. Quelques semaines plus tard, vous faisiez, selon l'expression de Gérard Collomb, le casse du siècle, un petit parti, une grande marche. Emmanuel Macron à l'Élysée, 314 députés à l'Assemblée, il y en a 269 aujourd'hui. Alors il paraît que chez LREM, on se gratte la tête pour savoir comment refaire le coup. C'est possible de refaire le coup deux fois ?
On ne réécrit pas l'histoire deux fois, donc ce sera sans doute différent, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui l'anniversaire. On se souvient tous où on était il y a 5 ans. Moi, j'étais à Montréal. Je suivais ça de loin. Quelques jours après, je me suis inscrit sur la plateforme. Quelques semaines plus tard, je cofondais En Marche à Montréal. Et le reste, c'est l'histoire, vous l'avez dit. Ça a été une aventure assez exceptionnelle.
Je précise que vous êtes député des Français d'Amérique du Nord. Mais bon, il n'y a pas de fête, rassurez-nous. L'heure n'est pas à la fête.
Non, l'heure n'est ni à la fête, ni à la nostalgie. Bon, un anniversaire, c'est aussi le bon moment pour revenir sur ce qu'on a vécu, mais aussi avant tout pour se projeter sur l'avenir. Donc l'idée, c'est de remobiliser les troupes, de resserrer les rangs, de préparer les échéances qui viennent, départementales, régionales au printemps, présidentielles, législatives dans un an. Les gens sont motivés, moi je le sens. En tout cas, les gens sont heureux de se retrouver. Ça va être digital, évidemment, en numérique.
Mais est-ce que le président va faire une petite apparition dans ce meeting digital numérique?
Écoutez, on verra. Je pense qu'il a autre chose à faire ces temps-ci. Il était évidemment extrêmement concentré sur la gestion de la crise sanitaire. On entre dans une troisième période extrêmement contrainte. Les gens se demandent aujourd'hui comment ils vont garder leurs enfants, comment on va pouvoir, on l'espère, retrouver une activité normale le plus rapidement possible.
Dites-moi, le rêve, c'était un grand parti démocrate à l'américaine. Et encore une fois, vous savez mieux que quiconque ce qu'est un grand parti démocrate pour avoir vécu là-bas aux États-Unis. L'un de vos collègues faisait cette remarque relayée par notre journaliste William Galibert. LREM, ça sert à distribuer des tracts. Tout le reste, c'est Macron. C'est ça aujourd'hui à l'REM ?
D'abord, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de mouvements qui peuvent revendiquer autant d'adhérents, de sympathisants et de membres actifs que nous. Évidemment, distribuer les tracts en période de pandémie, ce n'est pas l'idéal. Il y a aussi énormément de mobilisation sur le fond. En fait, on est surtout un parti d'idées. Les gens, quand ils rejoignent En Marche, en général, c'est parce qu'ils s'intéressent à quelque chose, une cause. Ça peut être l'économie, ça peut être le social, ça peut être l'Europe qui a beaucoup mobilisé, ça peut être l'égalité hommes-femmes. Vous parliez tout à l'heure des députés de l'Assemblée. Sans les députés En Marche, on aurait 23% de femmes à l'Assemblée. Grâce à nous, on en a 40%. Ça aussi, c'est le renouvellement et ça, on peut en être fiers.
Mais c'est un parti qui pêche aussi sur les élections locales. Je ne sais plus qui disait, on va encore jouer les seconds rôles comme au municipal pour ces régionales qui arrivent les 13 et 20 juin. Vous avez fait une croix finalement sur ces élections intermédiaires ?
Non, je pense qu'on a appris des municipales, donc les attentes sont pas très élevées, vous venez de le dire. On va les jouer à fond, parce qu'on considère que c'est une élection importante, départementale et régionale.
D'abord, c'est-à-dire les jouer à fond ?
Eh ben, on sera là, partout, unis d'ailleurs, on sera pas tout seul, on sera dans une majorité présidentielle.
Il y a peu de chances de victoire, vous le savez bien.
Dans cette période de crise, il y a clairement une prime au sortant, et ça, il faut le reconnaître. Mais une élection régionale, c'est finalement l'élection d'un parlement régional. On souhaite avoir des élus partout. On a des candidats et des candidates partout, qui sont des candidats et des candidates de qualité. On verra si on a des surprises. D'ici là, on va les jouer à fond.
Mais vous allez faire des alliances. C'est inévitable pour vous, parce que vous n'êtes pas très présent. Vous n'êtes pas très ancré. C'est pas un parti qui est ancré dans les territoires, La République En Marche.
C'est un parti qui a 5 ans. Et qui est en train de se développer. C'est un parti qui est encore en croissance. Il y a des adhérents qui nous rejoignent tous les jours. Et c'est régional. On va jouer le premier tour. Et ensuite, on jouera le second.
C'est mieux. Mais par exemple, j'ai une question. Est-ce que LREM pourrait soutenir Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France si Xavier Bertrand se retrouve face au Rassemblement National ?
Vous savez, Xavier Bertrand, il souhaite, si j'ai bien compris, être candidat à la présidentielle.
Oui, mais là aussi, il y a d'abord les régionales.
Exactement, exactement. Il y a les régionales. Et donc, avant de montrer qu'il peut rassembler la France, va déjà falloir qu'il montre qu'il peut rassembler sa région. Je pense que ce sera à lui de voir. On verra les résultats
du premier
tour.
Mais s'il est en difficulté, vous l'aiderez ?
Ben, on verra avec lui. Vous savez, il y a différentes manières de jouer le fameux front républicain. On peut se maintenir, on peut s'allier, on peut se retirer. On verra la situation du premier tour. Elle n'est pas faite, celle-là.
Elles auront bien lieu les 13 et 20 juin prochains, ces élections régionales ?
Je l'espère, en tout cas.
En plein air ?
Écoutez, moi, je suis député d'Amérique du Nord. On n'a jamais voté autant aux États-Unis en novembre dernier, avec un résultat d'ailleurs que moi, j'apprécie. Et on était en pleine troisième vague. On doit pouvoir tenir la démocratie. On espère d'ici là pouvoir ouvrir les cinémas, les restaurants. J'espère qu'on pourra voter.
Vous n'auriez pas pu, depuis tant de mois, mettre en place le vote par correspondance. Je sais que certains dans votre parti auraient bien aimé qu'on mette en place ce type
dont moi.
De processus.
Moi, j'étais...
Dont vous, oui.
Non, moi j'étais pour, je le reste. Le problème des élections françaises, vous le savez, c'est qu'on a 2 tours, éloignés d'une semaine. Et c'est compliqué, évidemment, de faire des alliances potentielles, de réimprimer les bulletins de vote, de les envoyer et de donner le temps aux gens de voter en une semaine. Donc malheureusement, c'est pas facile. En fait, c'était pas possible pour celle-ci. J'espère qu'on va moderniser notre démocratie, elle en a bien besoin.
Roland Lescure, vous qui êtes un macroniste de la première heure, est-ce que vous êtes surpris du peu de soutien dont fait preuve Édouard Philippe à l'égard d'Emmanuel Macron ?
Non, il est libre et loyal, c'est l'expression consacrée.
Vraiment loyal ?
Oui, moi je pense que sa liberté, c'est aussi la condition de sa loyauté. Il a été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Déjà, je pense que sa popularité, elle doit en grande partie ça à ce bilan, qui est aussi le nôtre. Il a mis en œuvre une politique pour laquelle on a été élu, il y a près de 5 ans, et il l'a mis en œuvre, je pense, avec brio sur l'économie, le social, l'école, l'université.
Mais il était l'invité de France 2 dimanche soir, et à la question « Est-ce qu'il fera tout pour qu'Emmanuel Macron soit réélu ?», il répond « Je ne peux pas être aujourd'hui celui qui souhaiterait l'échec ». Il ne dit pas « Oui, absolument, je ferai tout pour qu'il soit élu », il ne le dit pas ça.
Oui, moi je pense que, d'ailleurs, il l'a dit ce matin, cette question, c'est vraiment pas la question du moment. Je pense qu'il a insisté sur le fait qu'il faut avancer sur le fond. Il a parlé de la dette, de l'autorité de l'État. Moi, je pense qu'il y a d'autres sujets tout aussi importants, l'égalité des chances, l'Europe, l'écologie qui fait rêver, pas celle qui nous empêche de rêver. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut travailler sur le fond. Ensuite, je pense que les questions importantes, elles se poseront plus tard, n'en déplaise à M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Bertrand.
Il n'y a pas d'esquive comme le titre Le Figaro ce matin.
Moi, je pense qu'il ne souhaitait pas répondre à des questions que tout le monde lui pose et qui, de mon point de vue, ne se posent pas aujourd'hui. Il est là pour présenter son livre. Je ne l'ai pas lu, je l'achèterai demain. Il sera en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci à Jean Castex, d'ailleurs, de les avoir laissées ouvertes. Et donc, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu.
Mais pardon d'insister, cette petite phrase, de toute façon, je ne serai pas candidat, sauf si Emmanuel Macron ne l'est pas. Il dit qu'il ne se souvient plus vraiment de l'avoir prononcé. Peut-être que si, peut-être bien que non. Enfin, bref. Ça, vous ne trouvez pas ça étrange ?
Non, je ne sais pas à quelle question il répondait, s'il a répondu cette phrase et quand il l'a répondu. Je pense qu'il faut éviter de retirer les petites phrases de leur contexte. Il a, je pense, pas mal essayé de défendre son bouquin, de le présenter dimanche. Et s'il n'y avait qu'une question dans la tête de Laurent Delahous qui l'interrogeait, je pense que ce n'était vraiment pas la question du moment. Concentrons-nous sur le fond, il a parlé de stratégie, je pense que c'est l'essentiel.
Il ne se présentera pas contre Emmanuel Macron, selon vous ?
Je ne pense pas. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont candidats. J'espère qu'Emmanuel Macron sera candidat. Ce sera le mien, en tout cas.
Roland Lescure, vous faites partie des parlementaires qui ont signé dans le journal du dimanche la tribune appelant à débattre de la fin de vie. C'est une proposition de loi qui crée un droit à l'euthanasie. Elle sera présentée jeudi à l'Assemblée nationale. Et c'est une tribune qui dénonce aussi ces milliers d'amendements pour empêcher, en fait, le vote. Qui empêche ?
On a beaucoup d'amendements, je pense 2500 déposés par quelques députés du groupe Les Républicains. Moi, je le regrette. J'aurais préféré qu'on prenne le temps de débattre cette proposition de loi, qu'on puisse aussi avoir une vraie consultation citoyenne. Par exemple, une convention citoyenne sur la fin de vie, je pense que ce serait plus adapté encore que celle sur le climat. Mais cette proposition
de loi... Une convention citoyenne sur la fin de vie.
Oui, moi je pense que l'Irlande l'a fait sur des sujets difficiles pour l'Irlande, comme l'IVG ou le mariage pour tous. Les sujets sociétaux sont particulièrement adaptés à ce type d'exercice. Mais là, en l'occurrence, il y a une proposition de loi qui vient à l'Assemblée. Il faut en débattre. Moi, je la voterai. Et je regrette cette obstruction un peu systématique. Oui.
Cette proposition de loi, elle a été déjà adoptée en commission. Est-ce que sur cette question, on a assez débattu ? Je vous pose la question parce que, évidemment, c'est un sujet intime, d'éthique. Enfin, Michel Houellebecq, l'écrivain, dit ce matin « Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect ». Il est contre.
Il est contre et je le respecte, évidemment. Moi, ce que je note, c'est qu'en 100 ans, on a à peu près doublé l'espérance de vie en France. Ça, c'est un choix collectif qu'on a fait. Depuis un an, on se bat pour maintenir nos aînés en vie. Ça, c'est aussi un choix collectif qu'on fait, qui est tout à fait louable. Mais face à ce choix collectif de repousser les limites de la mort, je pense qu'on doit laisser la liberté individuelle de choisir de ne pas le faire, évidemment, dans des circonstances extrêmement particulières, de maladies terminales, dans lesquelles il n'y a pas d'issue. Le choix collectif de repousser les limites de la mort, le choix individuel de pouvoir la terminer, je pense que c'est un bon équilibre.
Et on en a assez débattu ou vous pensez que c'est un sujet qui doit être dans la campagne présidentielle, par exemple ?
Mais je pense que ce n'est pas forcément un sujet de campagne présidentielle. Les candidats devront sans doute se prononcer là-dessus. C'est un sujet qui dépasse les clivages. Quand vous regardez les signataires en question, ils sont dans tous les mouvements, dans tous les groupes. Je pense qu'on doit pouvoir mettre en avant le rôle du Parlement sur un sujet aussi complexe et le voter de manière, j'espère, unanime ou presque, mais en tout cas transpartisane.
Et je rappelle que l'Espagne a légalisé l'euthanasie. Les personnes vont aussi en Belgique ou en Suisse et il y a des euthanasies clandestines en France entre 2000 et 4000, dit-on. Merci beaucoup, Roland.
Merci à vous.
Les 5 ans de la République en marche, l'heure n'est ni à la fête ni à la nostalgie. On se projette dans l'avenir, les régionales, puis la présidentielle. Vient de nous dire Roland Lescure, la démocratie doit pouvoir fonctionner, même en période de Covid. Roland Lescure qui par ailleurs propose une convention citoyenne sur la fin de vie. L'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site RTL.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini.
RTL Matin, le surf de l'info, Cyprien Sini.
Mais oui, 7h57 et Cyprien, vous surfez avec les déclarations de nos maires écolos puisque rien ne vous échappe.
Ah bah depuis les dernières municipales, la France est submergée.
La vague verte qui s'enracine.
Lyon, Strasbourg, Besançon, Bordeaux.
C'est une vague verte, effectivement, sans précédent.
La vague verte déferle et je peux vous dire qu'en moins d'un an... Niveau polémique, on l'a bien senti passer la vague. Hein. C'est la déclaration qui a fait jaser pendant tout ce week-end Pascal, la maire écolo de Poitiers qui dit...
Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
Oui, l'aérien ne doit plus faire rêver les enfants, les petits avions, les hélicoptères, tout ça terminé.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air.
Non, terminé on a dit. Mais le pire dans cette histoire finalement, c'est que la maire de Poitiers au départ, elle parle de réduire puis de supprimer les subventions à l'aéroclub local. Bon, on en pense qu'on veut, c'est un débat comme un autre. Mais derrière, elle sort donc ça.
L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
Et là, c'est la cata, parce que c'est un peu comme ça que ça se caractérise un maire écolo. Au milieu de tout un débat, et ben d'un coup, il te balance une bombe, sans cri égard, une lubie, un truc impossible, inaudible pour la plupart des gens, comme le maire écolo de Bordeaux, souvenez-vous.
Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville. Regardez des souvenirs de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc c'est pas du tout notre conception de la végétalisation.
Le coup de l'arbre mort de Noël, idéal pour se tirer une balle dans le pied, terrible ça en termes d'image. Et puis il y a le maire de Grenoble quand il parle de la 5G et qui résume ce qui reste quand même un progrès technologique considérable, bah comme ça.
Grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD.
Voilà, hein, c'est une façon de voir les choses, hein, une caricature d'eux-mêmes, en fait, on vous dit. Hein. À Besançon, pendant ce temps-là, dans les cantines.
Le plat végétarien est arrivé sans difficulté. Et le deuxième plat arrivera sans difficulté. La consommation de viande émet des gaz à effet de serre extrêmement importants.
On passe au repas végétarien, pas sans viande, hein, mais végétarien, deux fois par semaine dans les cantines. Et puis à Lyon, évidemment, on avait eu la polémique Tour de France. Et à chaque fois que je prononce Tour de France, il y a le klaxon, c'est contractuel. Bref, le maire Grégory Doucet qui balançait...
évoque une épreuve machiste et polluante. Machiste et polluant.
Sur le tour, jugé machiste et polluant.
Et l'écolo Raphaël Rémy Leleu dans la foulée.
Oui, malheureusement, le Tour de France tel qu'il est aujourd'hui est polluant et machiste.
Résultat, à chaque fois des sujets pas forcément absurdes au départ, mais une communication d'ayatollah contre-productive. Bon, en même temps, c'est vrai que niveau expression orale, hein, vous le savez, les verts, c'est tout un univers.
Hein. Créer des hubs intermodaux, des micro-hubs intermodaux, mieux valoriser les mobilités douces et partagées dans la communication et dans la signalétique de l'espace public.
Oui, il va vite falloir qu'on apprenne tous à parler la même langue quand même, sinon on va avoir du mal à s'en sortir.
Merci Cyprien, on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto dans RTL Soir.
À ce soir.
À tout à l'heure, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Paris, ses monuments, ses musées et sa saleté.
La mairie, dans le viseur des réseaux sociaux, dénonce une campagne de dénigrement, pour ne pas dire ordurière. En Ile-de-France, les usagers des RER A et B bientôt remboursés en cas de retard. Et puis les pompiers autorisés à vacciner, mais ça s'apprend. Reportage dans ce journal.
Notre météo, Claire Delorme.
Bonjour Yves, alors ça sera surtout de l'instabilité, mais peu active au nord et à l'est avec des giboulées sous forme de neige mêlée et de grésil, alors qu'au sud, c'est relativement calme, hormis les Pyrénées. Et puis pour les températures, des gelées bien piquantes en matinée pour la moitié nord. Et puis pour l'après-midi, ça sera pas plus de 10 degrés et on conserve 16-17 degrés en direction du sud.
RTL Matin.
Paris est-elle devenue une ville poubelle ? Oui, à en croire les photos qui inondent les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Derrière ce mot dièse, saccage Paris qui montre des rues, des trottoirs sales, des bacs à fleurs remplis de déchets. À l'heure où Anne Hidalgo se travaille une stature nationale et une éventuelle candidature à la présidentielle, la droite évidemment joue sur du velours en l'accusant de déserter sa ville. Pour RTL, Sébastien Rouxel a pris son courage à deux mains pour se promener rue Riquet dans le 19e arrondissement.
Des canettes, des cartons, une télévision éventrée, même un rat mort, tout un tas d'ordures, de détritus jonchent le trottoir qu'empruntent Brigitte et Daniel, deux retraités, pour rentrer chez elles.
Bah, c'est des poubelles entières qui ont été vidées.
Bah, je sais bien, mais c'est très sale.
Le sommier.
C'est très sale, le quartier est vraiment pourri. Hein. Regardez là, c'est dégoûtant, enfin voilà. Vraiment, on est très 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 ennuyés avec ça. Mais depuis 5 ans à peu près... Ça s'est beaucoup, beaucoup dégradé.
Tout le monde s'en fiche. L'autre jour, de ma fenêtre, j'étais en train de regarder. En face, au 5e étage, un monsieur, il n'a pas vidé ses poubelles, il les a vidées par son balcon.
Et si Brigitte pointe les incivilités, Teddy, lui, met en cause les pouvoirs publics.
Ça m'arrive de dire qu'il y a des préférences dans les quartiers, quoi. Et moi, je travaille, par exemple, dans le 8e. Dans le 8e, je ne vois pas ce que je vois ici. On paye les impôts locaux quand même. Si c'est propre chez eux, ça doit être propre aussi ici.
Même constat pour Christian. Il est allé jusqu'à envoyer une lettre au maire du 19e arrondissement.
Faire en sorte qu'il y ait plus de ramassage d'ordures ménagères dans la rue et d'encombrants aussi. Et puis un peu plus de surveillance au sujet des incivilités de la population locale.
Cette lettre, il l'a envoyée il y a quelques mois. Elle est pour le moment restée sans réponse.
Reportage signé Sébastien Rouxel.
Et à 8h20 sur RTL, la réponse de la mairie de Paris en la personne d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il sera notre invité. Confinement acte 3, c'est parti.
Oui, depuis hier soir et la fin du week-end de Pâques, les déplacements interrégionaux ne sont plus autorisés. C'est le retour de l'école à la maison dès aujourd'hui. C'est ce mardi aussi que l'armée arrive à la rescousse de la campagne de vaccination. 7 hôpitaux militaires sont mobilisés. Les pompiers également vont pouvoir piquer, mais ça s'apprend. Reportage dans un centre de formation à Velot, près d'Aix-en-Provence, Étienne Baudu.
Dans l'amphithéâtre du centre de formation, c'est Cindy, jeune pompier volontaire qui enfile sa blouse blanche et c'est le médecin colonel Jean-Louis Barra qui lui prodigue l'art de la vaccination.
Voilà, tu mets les gants.
Sur la table, tout est prêt.
Les compresses.
C'est ensuite la désinfection et le moment le plus critique, évidemment, la piqûre. Il y a toujours une petite appréhension, même si elle se fait dans une épaule en mousse que porte un collègue.
Donc tu repères l'os qui est à l'extrémité de l'épaule, là c'est l'acromion. Là tu n'arriveras pas à planter, tiens-le comme une fléchette.
Ah, voilà. Bonjour fléchette alors.
Voilà. Tu piques perpendiculaire. À la peau. Allez, voilà, super. Non mais ça va.
Cindy qui est peut-être allé un peu fort.
Ah, c'est un coup à prendre, je pense. Puis on va être encadré, donc ça va très bien se passer. On va toujours avoir un médecin ou un infirmier à côté de nous.
Et Cindy, comme Frédéric, autres pompiers, volontaires pour la formation comme tous leurs collègues, sont convaincus de leur utilité.
Ben, il faut la faire, la vaccination de masse, parce qu'apparemment, là, le Covid dans les Bouches-du-Rhône, ça a encore flambé. Donc là, je pense qu'il faut vacciner, qu'on puisse l'enrayer, cette épidémie, et qu'on puisse vivre normalement de nouveau.
Et dès la semaine prochaine, tous se rendront au gymnase de Coudoux, entre Marseille et Salon de Provence, où est installé un vaccinodrome et où la cadence devrait s'accélérer.
Étienne Baudu, et c'est aujourd'hui que le Stade de France, près de Paris, accueille ses premiers bras à vacciner. Objectif 10 000 injections par semaine. Et alors que la France tente de rattraper son retard sur les vaccins et se reconfine, le Royaume-Uni nous narguerait presque en annonçant pour lundi la réouverture de tous les commerces, y compris les bars et les restaurants. Boris Johnson, le Premier ministre, sera au rendez-vous.
On Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously. But irreversibly,
Boris Johnson, tout heureux à l'idée de pouvoir savourer une pinte de bière dans un pub dès lundi. Une sorte de happy hour pour un lundi heureux, Marie Billon.
Ce sera à nouveau un happy Monday, un autre joyeux lundi, encore plus heureux que celui qui célébrait la fin de l'ordre de rester chez soi le 29 mars dernier. Puisque cette fois, les Anglais pourront trinquer à la terrasse d'un pub. Ils pourront lever leur verre à la réouverture des magasins, des coiffeurs et des salles de sport. Utile si jamais ils boivent trop de bière et que la culpabilité les guette.
Ce sont tous vos efforts qui nous ont donné le temps et la possibilité de vacciner plus de 31 millions de personnes. Mais il ne faut pas baisser notre garde, car on voit bien les nouvelles vagues de la maladie qui assaillent les autres pays.
Mais, précise Boris Johnson ensuite, les données sont bonnes pour l'instant, ce qui veut dire que le calendrier de déconfinement devrait être honoré. Il est donc possible que les voyages à l'international soient à nouveau permis le 17 mai. Il est resté vague, par contre, le Premier ministre sur les passeports Covid, qui seraient autant utiles pour aller voir un match de foot dans un stade que pour aller faire cuire ses taches de rousseurs anglaises sous le soleil de la Côte d'Azur. Vu que ces certificats, comme le gouvernement les appelle, ne sont pas très populaires, Boris Johnson a préféré s'en tenir aux bonnes nouvelles du joyeux lundi prochain.
Marie Billon à Londres pour RTL.
8h06, sa voix est rare dans le débat public, c'est celle de Michel Houellebecq qui prend la plume ce matin dans le Figaro contre le suicide assisté.
Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, écrit l'auteur des Particules élémentaires. Personne n'a envie de souffrir, souligne Michel Houellebecq, alors que le débat risque d'animer l'Assemblée l'Assemblée jeudi autour de la proposition de loi de l'ancien socialiste Olivier Falorni qui aujourd'hui accuse la droite d'obstruction. La droite qui a multiplié les amendements qui risquent d'empêcher l'adoption d'un texte soutenu pourtant par tous les groupes.
J'ose espérer qu'ils n'ont pas l'aval de leur président de groupe et moi je pense que Damien Abad devrait siffler la fin de la récréation si j'ose dire et je crois qu'il est encore temps que ces députés se ressaisissent parce qu'aujourd'hui c'est une attitude honteuse. Je rappelle que 96% des Français attendent une loi sur une fin de vie libre et choisie.
Et la réponse de Damien Abad, justement, le chef des députés LR.
Il n'y a aucune stratégie d'obstruction au sein du groupe Les Républicains. On est un groupe de 105 et la grande majorité de notre groupe ne veut pas faire d'obstruction sur ce débat, qui est un débat important pour les Français, qui est celui sur la fin de vie. Et d'ailleurs, nous ne déposerons aucun amendement de groupe pour montrer justement qu'il y a une liberté de conscience, il y a une liberté de vote dans notre groupe. Ensuite, le droit d'amendement, il est libre et individuel, que chaque député peut exercer. Il faut respecter cela.
Propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire.
Dans un instant, mini-révolution pour les usagers des RER A et B en Ile-de-France, les retards seront remboursés. Vous avez bien entendu. Allez, à tout de suite, on vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin. RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est un rêve qui devient réalité pour les 4 millions d'usagers des RER A et B en Ile-de-France.
Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Le nouveau contrat entre la RATP et Ile-de-France Mobilité prévoit, vous l'avez bien entendu, de rembourser les voyageurs en cas de retard.
Absolument, et les règles seront très claires. Si la ponctualité est inférieure à 80% pendant 3 à 5 mois sur une branche de la ligne A ou B du RER, pas sur toute la ligne, les voyageurs seront remboursés automatiquement d'un demi-mois de passe Navigo, soit 37,60€ pour le forfait mensuel. Mieux encore, si la ponctualité n'est pas au rendez-vous sur 6 à 9 mois, eh bien ce sera le remboursement d'un passe Navigo complet, soit 75,20€ pour toutes les zones. Les remboursements concernent uniquement les RER, mais pas les métros, même si un nouvel indicateur de ponctualité sera mis en place, y compris pendant les heures creuses, indiquent nos confrères du Parisien. Enfin, les choses seront simplifiées également. En cas de grève, le remboursement sera désormais automatique, explique Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité.
Toutes les précisions signées Arnaud Touche. Merci Arnaud. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'avait annoncé dimanche sur RTL. L'État va aider à nouveau Air France. Cette aide sera de 4 milliards d'euros. Bruxelles vient de donner son feu vert. L'État pourra monter à un peu moins de 30% du capital de la compagnie aérienne plombée par la crise. En échange, Air France devra céder 18 créneaux de vol à d'autres compagnies.
8h11, tentative d'apaisement aujourd'hui entre Bruxelles et Ankara.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel, sont reçus par le président turc Erdogan. La réconciliation peut-elle avoir lieu? C'est le sujet de notre brigade RTL. Et c'est avec vous, Bénédicte Tassar. Bonjour.
Bonjour.
La Turquie est de nouveau fréquentable?
Ah, par certains aspects, oui. On est loin des déclarations va-t-en-guerre de 2020 de Recep Erdogan. Souvenez-vous du président turc mettant en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron, qualifiant la France de raciste. Souvenez-vous aussi de ces navires turcs d'exploration gazière dans les eaux territoriales de la Grèce et de Chypre, de l'implication d'Ankara dans les conflits en Syrie, en Libye, en Irak ou dans le Nagorno-Karabakh. Après avoir menacé de sanctions, l'Union européenne estime aujourd'hui que Erdogan tend la main et qu'on peut tenter de renégocier avec lui sur l'union douanière, sur les réfugiés ou encore sur les visas accordés aux ressortissants turcs. Mais attention, il reste des points sensibles que Ursula von der Leyen et Charles Michel devront absolument aborder aujourd'hui. Pourquoi la Turquie s'est-elle retirée de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes? Et pourquoi une telle répression du parti pro-kurde HDP, sans compter les multiples arrestations arbitraires?
Mais la Turquie, elle a besoin de cette main tendue?
Elle a besoin parce qu'économiquement, le pays souffre beaucoup, avec une inflation de plus de 15% chaque année depuis 5 ans. La cote de popularité de Recep Erdogan s'effrite. C'est pour la première fois en 18 ans, le président n'est pas sûr d'être réélu en 2023.
Et pourquoi se réconcilier avec la Turquie?
Alors, on est loin du rêve turc d'intégrer l'Union européenne, un rêve balayé depuis que Recep Erdogan s'est transformé en dirigeant autoritaire depuis le coup d'État raté de 2016. Mais la Turquie possède quand même la deuxième armée de l'OTAN et elle accueille surtout sur son territoire 4 millions de réfugiés syriens. Des réfugiés qu'elle empêche d'entrer chez nous contre rétribution financière. La Turquie, vous le voyez, on en a besoin.
Ouais, mais au sein de l'Union européenne, tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne à tenir face à Ankara.
Non, parce qu'il y a l'Allemagne où vivent 3 millions de Turcs. L'Allemagne a toujours été voté pour la négociation avec Recep Erdogan. Pour la Grèce, ce n'est pas pareil. À l'école primaire, on nous apprend que la Turquie est notre ennemi, nous raconte un député grec. Tous les jours, des avions turcs décollent de Smyrne vers la Grèce et Athènes redoutent toujours une invasion militaire. Les Grecs soutenus par les Français. Pour l'Élysée, l'équilibre actuel est fragile. Erdogan doit clarifier sa position. La Turquie est-elle avec nous ou contre nous, interrogé encore récemment Emmanuel Macron. En tout cas, aujourd'hui, il ne faut pas rompre ce lien.
La brigade RTL signée Bénédicte Tassard. En bref, toujours à l'étranger, quand on aime, on ne compte pas. Vladimir Poutine pourra faire 2 mandats de plus s'il le souhaite. Il a signé une loi qui le lui permet. Le président russe pourrait ainsi rester au Kremlin jusqu'en 2036. Il aura alors 83 ans. Et puis la Corée du Nord qui annonce qu'elle ne participera finalement pas au JO de Tokyo. C'était pourtant l'un des éléments clés du réchauffement diplomatique opéré il y a 3 ans. Pyongyang ne veut pas exposer ses athlètes au risque de contamination.
Les viticulteurs en alerte avec le coup de froid qui s'installe sur le pays.
C'est du brutal, hein, Claire nous le disait. Après la chaleur de ces derniers jours, dans les vignes, les bourgeons sont sortis. Il faut donc les protéger. Et pour éviter de voir le travail d'une année réduit à néant, l'une des techniques consiste à utiliser des bougies pour réchauffer l'air. Un travail délicat que nous explique Jean-François Signoret, viticulteur à Viret, près de Mâcon.
Et on positionne nos bougies sur le rang. On va les éclairer avec des petits chalumeaux. On éclaire, on passe à chaque bougie. Et cette bougie, elle dure, en principe, environ 8 heures. Les bourgeons ont éclos, ça protège du gel. Mais c'est tout pareil, c'est-à-dire que s'il fait moins 1, moins 2, ok. S'il fait moins 5, moins 6, voire plus, je pense qu'on va faire beaucoup de... On va brasser beaucoup d'air, mais pour peu d'effet, quoi. Cette année, j'ai désassuré la partie gel. Mais il faut être joueur, hein. Je vous le dis, franchement, ça passe ou ça casse. Voilà.
Propos recueillis par Bertrand Frachon.
L'histoire du jour.
Escapade à ski pour un Norvégien qui tentait d'échapper à la quarantaine obligatoire dans son hôtel en Suède. Il a pris la poudreuse d'escampette à ski, donc, pour essayer de rejoindre la frontière. Il a ainsi glissé pendant 40 km. Oui, 40 km à ski. Avant de se retrouver piégé à cause du mauvais temps, il a été secouru par un éleveur de rennes et remis à la police pour violation de règles sanitaires. L'enfer du froid jusqu'au bout.
C'était le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Jean-Mathieu Pernin qui va vérifier les informations, autrement dit démonter les fake news.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h17, on regarde ce qui se passe du côté des intox et des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, non, le gouvernement n'organise pas la fin de la viande halal en France.
Et oui, depuis mi-mars, cette rumeur d'interdiction de la viande halal survit dans l'espace numérique et revient donc à l'approche du ramadan qui débute dans pile une semaine. Alors tout commence en fait le 18 mars, quand 3 mosquées, Paris, Lyon, Évry, publient un communiqué commun dans lequel il est écrit, je cite, qu'à compter du mois de juillet 2021, l'abattage halal de la volaille en France ne sera plus autorisé. Alors, en référence à une instruction du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du 23 novembre 2020. C'est bizarre, on n'en a pas entendu parler. Alors, l'objectif de cette directive est simplement, je cite, d'apporter des précisions supplémentaires aux conditions antérieures pour l'application et le contrôle, la magie du langage administratif, de l'abattage donc à assurer le ministère de l'Agriculture à l'AFP, notamment concernant la mise en œuvre en fait, de la dérogation de l'éblouissement d'étourdissement, une dérogation qui a été mise en place pour les abattages rituels du culte musulman par le décret du 28 décembre 2011, et il n'est pas question de revenir sur cette dérogation.
Alors en fait, le problème serait d'ordre financier, c'est bien cela ?
Complètement. Alors afin de tuer, alors allons dans la précision, afin de tuer la volaille dans le respect des principes dogmatiques de l'abattage halal mais également cachère, 2 choix sont possibles pour les abattoirs. Alors la mise à mort sans étourdissement, qui nécessite un aménagement des chaînes d'abattage, donc plus coûteux, plus cher, et la mise à mort par étourdissement sans respect des paramètres du règlement européen qui consiste en une électronarcose, qui est une méthode en fait qui consiste à plonger l'animal dans un bain électrique pour provoquer sa perte de conscience. C'est la méthode choisie par les 3 grandes mosquées qui nécessite l'obtention d'une dérogation auprès du préfet. C'est ce choix et ce mode de fonctionnement que propose le ministère de l'Agriculture et pas du tout d'interdire la viande halal.
Bon, là, je suis en train de devenir végétarien. Alors pourquoi cette information a-t-elle été interprétée ainsi ?
Alors c'est la crainte des recteurs des 3 grandes mosquées et que cela entraîne une baisse de la consommation de la viande abattue d'une manière traditionnelle. Mais la notion d'interdiction a été privilégiée par certains. certains cars. En fait, c'est un raccourci simpliste, tout simplement. Oui, voilà. Et l'AFP a remarqué surtout que parmi ceux qui ont relayé cette rumeur, on retrouve de nombreux médias turcs, pays avec lesquels il y a une légère tension actuellement. Et vous allez voir que cette tension peut même s'inviter de temps en temps à table.
Raccourci simpliste, nous disiez-vous. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Bernin. Dans un instant, Michel Simès.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour cher Michel.
Bonjour Yves.
Alors nous en parlions hier avec Olivier Bost. Mi-avril, les pharmacies pourront délivrer des autotests salivaires pour dépister le Covid. On a envie de dire enfin.
Oui, enfin si on veut. On rappelle d'abord que ces autotests permettent, comme leur nom l'indique, de voir si l'on est porteur du virus. Un écouvillon dans les narines, sans l'enfoncer aussi loin que les PCR ou les tests antigéniques. On le met dans un réactif et on attend un peu, même principe que pour les tests de grossesse. Alors oui, 100 fois oui, c'est moins fiable que les PCR. Ce n'est pas aussi simple qu'on le dit parce qu'il faut bien faire le prélèvement. Ça risque de faussement rassurer des gens qui seraient porteurs du virus, mais dont le test serait négatif. Ça permet à ceux qui seraient positifs et peu responsables de garder le résultat pour eux avec le risque de le transmettre.
Dites-moi, oui, 100 fois oui, dites-vous. On vous sent quand même un peu énervé.
Et vous sentez bien, oui. Vous sentez bien, Yves, ces derniers mois, je me suis bien gardé de critiquer les décisions prises par les autorités sanitaires, le ministre de la Santé ou le président de la République. On ne va pas entrer dans les polémiques style « c'est mieux ailleurs » ou « on aurait dû faire ci ou ça » alors que le virus est imprévisible. En revanche, ce qui se passe avec ces autotests est incompréhensible. D'abord, ça fait des semaines que les autres pays vendent ces tests.
Bah oui.
Et ils le font non seulement en pharmacie, mais également dans les grandes surfaces. Mmh. En France, il faut des semaines entre l'autorisation de les commercialiser, mi-mars, et leur mise à disposition au public, mi-avril. Et je vais sûrement fâcher ces acteurs de santé indispensables que sont les pharmaciens, mais pourquoi sont-ils les seuls à pouvoir vendre ces tests ? Alors certes, ce sont des dispositifs médicaux et la loi interdit leur vente en grande surface, sauf qu'il y a des dérogations, à condition qu'il y ait un pharmacien, puisque l'on peut y trouver des tests de grossesse et d'ovulation. Il suffirait d'un arrêté pour que les autotests Covid puissent entrer dans le cadre des exceptions. Mais non, les pharmaciens en ont obtenu l'exclusivité. Plus les tests seront accessibles, plus de Français les feront. Bien sûr, tout le monde ne se déclarera pas forcément s'il est positif. Et alors ? Vous pensez que parce qu'une personne aura acheté son test en pharmacie, elle se sentira obligée de se déclarer ? Si c'est le cas, tous les pays qui autorisent la vente en grande surface sont complètement inconscients.
Finalement, cette histoire d'autotest n'est-elle pas symptomatique de tout ce qui se passe, on va dire, sur le plan bureaucratique et corporatiste depuis le début de l'épidémie, en incluant la Haute Autorité de Santé d'ailleurs ?
Bien sûr, Yves, Emmanuel Macron ne cesse de répéter que notre pays est plombé par les méandres de la bureaucratie, des administrations qui se renvoient la balle, du principe de précaution qui devient complètement délirant tellement il ne s'adapte pas à la crise terrible que nous traversons. Nous sommes figés par un dogmatisme, des lois auxquelles on ne veut pas toucher, des lobbies, un corporatisme, même en cette période où tout le monde devrait aider à trouver des solutions. Combien de temps il a fallu pour que les vétérinaires soient autorisés à vacciner ? Combien de temps il a fallu pour que l'on fasse appel au privé alors qu'on manquait de lits de réanimation dans le public ? La priorité, c'est de sortir de cette épidémie et vite. Mais après, dans le nouveau monde, il va vraiment falloir se pencher sur ce qui n'a pas fonctionné et il y a du boulot.
Un Michel Simès de mauvaise humeur ce matin. Je vous dis à demain.
Voilà, ça ira mieux demain.
J'aime bien vous voir sourire. Oui, bah alors demain, on a un match de foot, hein, je vous le rappelle.
Ah oui, ça risque d'aller moins bien.
Alors, on verra bien comment ça se passe, il est 8h23. Dans un instant, Paris sous le feu des critiques, dernière polémique en date, la saleté des rues, très largement partagée sur les réseaux sociaux, en France, mais aussi dans le monde entier. Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de Paris, est avec nous dans ce studio. A tout de suite.
RTL Matin, 7h, 9h30, avec Yves Calvi.
Il est 8h24. Bonjour Emmanuel Grégoire.
Bonjour.
Premier adjoint au maire de Paris, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous expliquer la polémique du moment. Pour être tout à fait clair et recontextualiser les faits, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, de nombreux Parisiens partagent le pire de leur quotidien en matière de saleté. Photo à l'appui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes loin de l'image, on va dire, de la carte postale de la ville. Emmanuel Grégoire, concédez-vous un problème avec la propreté à Paris ?
Oui, la propreté a toujours été un problème à Paris. Ça a toujours été la situation d'une ville qui est dense, dans laquelle il y a beaucoup d'habitants et sur lesquels nous mobilisons des moyens exceptionnelle, en particulier dans le contexte Covid, où voilà, beaucoup de perturbations dans le fonctionnement de la ville, y compris le fonctionnement des services publics. Mais comme vous l'avez
un instant, c'est la première fois que j'entends la mairie dire oui, effectivement, il y a un problème.
Non, c'est pas vrai. Tous les maires de Paris l'ont dit. Tous les maires de Paris. La propreté à Paris a toujours été un sujet. Toujours. C'est la spécificité d'une ville très dense, qui est à la fois une ville magnifique et une ville dans laquelle il y a beaucoup de monde dans une organisation spatiale très contrainte.
Tous les maires de Paris, la population ne cesse de diminuer à Paris.
Non,
je veux bien que vous parliez de densité, mais
c'est pas tout à Monsieur Calvi. Ce n'est pas exact. La population parisienne, elle a beaucoup baissé dans l'histoire, beaucoup remonté. Nous avons perdu quelques dizaines de milliers d'habitants, mais en réalité, on reste beaucoup plus haut que le pic bas de population qui était en 1999. Donc depuis que nous sommes en responsabilité, si vous faites un paquet incluant Bertrand Delanoë, la population à Paris, elle a beaucoup augmenté. Voilà. Et il y a des éléments de conjoncture. Baisse de la natalité. Nous sommes responsables de plein de choses, mais pas forcément que les Parisiens, comme les Français en général, font moins de bébés. Et donc, voilà. Donc ça, nous le savons. Mais comme vous l'avez très justement dit, si vous faites chaque jour la photo de ce qui est le pire de votre quotidien, ce n'est d'abord pas une réalité de votre quotidien. La réalité, c'est que tous ceux qui viennent à Paris voient bien que Paris est une ville magnifique, ce qui n'empêche pas, mais comme toutes les villes...
Personne ne conteste la beauté de Paris.
C'est donc distinguer deux choses. Un, qu'il y ait ponctuellement, comme dans toutes les grandes villes du monde, comme dans toutes les grandes villes de France, des problèmes de propreté. C'est exact. Mais d'en faire un tropisme, d'en faire un angle de vision et de contestation politique, est pour moi dommageable à deux niveaux. La première, c'est que ça ne traduit pas la réalité. Et c'est vraiment un travestissement de la réalité. Et deuxièmement, c'est une attaque politique. Et donc, nous voulons aussi la dénoncer pour défendre les agents du service public et défendre la beauté de notre ville.
Je comprends très bien, je dirais, l'aspect politique. On va y revenir dans quelques instants. Juste pour qu'on soit bien d'accord et qu'on parle de la même chose. Il n'y a pas de déni de la mairie concernant les difficultés, puisque c'est comme ça que vous les nommez.
Non, il n'y a pas de déni, pour une raison très simple, c'est que les exaspérations que ressentent certains Parisiens aux incivilités...
Vous savez, on a parlé parfois de sentiments d'insécurité pour des Français ou des Parisiens, d'ailleurs, ça n'est pas le problème, qui, eux, vivaient l'insécurité. Donc là, on n'a pas un sentiment de saleté. Elle existe ponctuellement.
Mais bien sûr que ponctuellement, elle existe.
Merci de le dire.
L'exaspération des citoyens face aux incivilités, face aux gens qui vident leur cave dans la rue, face aux taggers, face aux stickers, face aux gens qui dégradent le mobilier urbain. Cette exaspération, elle est évidemment la nôtre. Elle est la nôtre parce qu'on est aussi des Parisiens, nous vivons à Paris, et elle est la nôtre parce que nous dépensons des sommes phénoménales pour essayer de contrebalancer ça. D'ailleurs, j'en profite pour relayer un message que nous avons donné plusieurs fois au gouvernement, pas que l'actuel et l'ancien. Il faut donner plus de pouvoir aux communes pour pouvoir augmenter les impôts, pour sanctionner beaucoup plus durement ces incivilités. Parce que, certes, la
répression... Vous me répondez par des amendes.
Non, pas que ce que j'allais dire. J'allais dire la répression n'est pas la seule arme dont nous avons besoin. Mais enfin, elle est extrêmement utile pour les comportements les plus délictueux.
Délictueux,
notamment quand on a des commerçants qui sont indélicats, ça arrive parfois, lorsqu'il y a des récidivistes de taggeurs, etc., ou quand des gens sont pris sur le fait sur la dégradation mobilier urbain, nous avons besoin de plus de sanctions. Mais c'est vrai que c'est aussi par l'éducation et par l'organisation des services publics que nous essayons d'améliorer la situation.
Que vous compreniez qu'il y a quand même un paradoxe. On est régulièrement, alors je serais tenté de vous dire, tant mieux bloqué par un camion de la propreté de Paris qui est en train de faire son boulot, c'est-à-dire tout simplement de nettoyer nos rues, et on a cette perception d'une ville qui est sale. Est-ce que vous venez de me dire, finalement, c'est une petite ville et il y a beaucoup de monde ?
Oui, enfin, encore une fois...
Il n'y a pas que Paris à être confronté à ça.
Non, mais d'ailleurs, dès que vous voyagez, quand on discute avec les maires des grandes villes...
Quand je vais à Londres, ça a une autre
allure. Ce n'est pas vrai. Moi, je connais très bien Londres. Quand vous allez dans le cœur historique de Londres, dans le cœur touristique de Londres, c'est propre. Quand vous allez dans tous les quartiers populaires du très grand Londres, c'est pas vrai que Sadiq Khan, le maire de Londres, du grand Londres, il n'est pas confronté comme nous à ces phénomènes. Il y est aussi confronté.
Je ne parle pas de la banlieue, mais du cœur de Paris. Ce matin, on se passait un reportage sur le 19e arrondissement où visiblement c'était extrêmement pénible, en tout cas pour ce que vivaient les gens. C'est-à-dire que, en gros, les encombrants n'étaient pas passés. On se demandait quand ils allaient les faire.
D'abord, les encombrants, il suffit de les appeler pour qu'ils passent. C'est unique au monde comme service. Il est gratuit.
C'est
vous
juste.
Les appelez et ils passent. Donc, je veux bien que
on est censé s'organiser en mettant son petit papier avec son numéro
exactement.
De collecte. D'accord.
Et beaucoup de gens ne le font pas encore. C'est pour ça qu'il y a Dans ma rue pour signaler les événements. Ces sujets de propreté, d'organisation de l'espace public, toutes les grandes villes y sont confrontées. Et vous allez à Londres, Londres est confrontée de la même façon à des opposants qui font des photographies répété ad nauseam, parfois très ancienne, parfois décontextualisée. Donc nous avons tous ces sujets-là, donc on essaie de les régler. Il faut les régler par, effectivement, l'amélioration de l'organisation des services de propreté. Et depuis des années, nous l'avons fait. Et ça progresse en matière de lutte contre les graffitis, en matière de lutte contre les encombrants et les dépôts sauvages, en particulier d'entrepreneurs indélicats. En matière aussi de circuits, d'équipements, où nous avons considérablement renforcé les équipements. C'est aussi, je le trouve, au-delà du sujet propreté, qui est un irritant pour tout le monde, un regard social sur notre vie et sur nos sociétés. Il y a deux façons de voir le monde. Soit de regarder le ciel et en se disant qu'il est plutôt joli, soit de regarder obstinément la poubelle, de la photographier et de considérer que c'est l'avenir du monde.
Pour cela, il faut éviter de marcher dans les détritus en regardant le ciel. Moi, le ciel de Paris est magnifique, la ville aussi.
Ce n'est pas valable que pour les villes, c'est quel regard on porte sur l'avenir. Et c'est assez marrant parce que parfois, les mêmes vont poster des photos moches d'un lieu et dire qu'est-ce que c'est moche, et d'autres vont les photographier aux mêmes endroits en disant c'est beau. Et donc, on veut aussi pacifier les usages, pacifier la cohabitation dans l'espace public, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se projeter positivement et vivre agréablement dans nos villes.
Pardonnez-moi, soyons positifs et projetons-nous dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Que comptez-vous faire? Et comment prendre en main ce dossier? Parce que j'entends bien depuis le début de notre entretien, vous nous dites ça a toujours été une difficulté parisienne et visiblement, vous m'expliquez que vous avez déjà fait d'énormes efforts en la matière que l'on ne perçoit pas. Bien, et je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas réels, je vous dis que l'on ne perçoit pas encore quand on se balade dans les rues de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Alors, est-ce qu'il y a une question de poubelle?
Deux choses. D'abord, je le redis parce que c'est un élément d'explication conjoncturelle, mais il n'est pas anodin que ce débat ait émergé là-dedans, c'est qu'on est dans une crise exceptionnelle et on devrait, je le crois, beaucoup plus se préoccuper de la vaccination, de la crise économique et sociale, plutôt que cette espèce de dérive sur les sujets qu'il ne dit pas qu'ils sont mineurs.
Là, c'est vous qui faites de la politique.
Mais faut quand même, c'est bien de faire la politique.
Oui, je suis pas contre.
Le sujet, c'est que par exemple, on a en ce moment des problèmes de disponibilité d'agents qui sont liés au fait qu'ils sont malades, qu'ils sont en autorisation spéciale d'affaires, que ceux qui donc sont disponibles se surinvestissent pour pouvoir compenser le travail de ceux qui sont absents. Donc nous avons engagé deux choses. La première, Anne Hidalgo, elle a porté une augmentation des moyens considérables en matière de propreté et plus généralement d'entretien des espaces publics. Et deuxièmement, elle a lancé il y a plusieurs mois un manifeste sur l'esthétique parisienne, qui est une réflexion, qui d'ailleurs est un enjeu urbain mondial, qui est comment on articule les nouveaux usages de la ville et la beauté, le respect de l'histoire patrimoniale.
Il y a beaucoup de participants ?
Il y a beaucoup de participants, et sur la consultation en ligne, et sur les rencontres que nous faisons. Je vois très bien à quoi vous faites allusion. Et c'est une très bonne nouvelle que les citoyens s'auto-saisissent des sujets et fassent leurs propres propositions. Pourquoi ? Parce que le débat est celui-ci, et ça a toujours été celui de Paris. Est-ce qu'on fiche Paris dans sa dimension patrimoniale et ça devient une ville-musée ? Notre objectif, notre ambition, c'est que Paris reste une grande ville attractive, dans laquelle il reste des habitants, dans laquelle ça vit. Et donc, quand ça vit, il y a des poubelles, nous les ramassons et nous nettoyons quand il le faut.
Un oui, un non. Rachida Dati demande un conseil de Paris exceptionnel pour prendre les choses en main en matière de propreté.
Mais c'est la démagogie habituelle de Rachida Dati. Elle raconte n'importe quoi. Elle est maire du 7e arrondissement. Autant vous dire que ce n'est pas la maire qui est le plus confrontée à ces sujets-là.
Elle aurait fait les Champs de Mars, il y a du monde.
Il y a beaucoup de monde, mais c'est pas elle qui s'en occupe. Moi, je respecte la présidente du groupe LR. Elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire s'opposer. Il y a un conseil de Paris la semaine prochaine, ça tombe bien. Donc, nous pourrons, comme d'habitude, parler de ces sujets-là. Je vois bien sa tentation d'instrumentaliser tous les sujets. Encore une fois, je le dis, ne nous détournons pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est la vaccination, c'est la sortie de la crise économique et tout ira bien.
On peut mieux faire, je vous ai bien compris.
On peut toujours mieux faire.
Allez-vous faire mieux? Voilà.
La réponse est oui, on peut toujours mieux faire et nous essayons de nous l'appliquer à nous-mêmes.
Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir pris la parole ce matin.
Merci
sur RTL. Dans un instant, la météo à 7 jours avec Claire Delorme.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h. 7h37, c'est l'heure de notre météo à 7 jours. On vous écoute religieusement, Claire Delorme.
Alors, on va commencer par de l'instabilité. Bon, elle sera peu active, mais si on est sous les giboulées, eh bien, faudra s'attendre à de bonnes averses de neige mêlées à du grésil pour les régions du nord, mais aussi de l'est. Alors, partout ailleurs, en revanche, un ciel beaucoup plus variable, avec même un temps agréable vers la façade atlantique, la Méditerranée, mais au prix du vent. Mistral et Tramontane qui vont souffler dans leur domaine avec des pointes violentes en Corse, hein, 120 km/h au cap les plus exposés. Ça va en revanche un petit peu faiblir dans le courant de l'après-midi, mais c'est un vent de nord-ouest qui va se mettre en revanche en place dans le courant de l'après-midi à l'intérieur des terres. Ça va donc accentuer ce désagréable ressenti de froid pour un mois de printemps. Oui. Donc grosso modo, ça nous donne des gelées en matinée, donc pour la moitié nord de moins 1 à moins 5 degrés, alors que ça sera encore positif dans le sud. 9 degrés pour l'Occitanie au maximum et puis 11 degrés pour la Méditerranée. Dans l'après-midi, ça continue de baisser. 6 à 10 degrés dans la moitié nord, 9 à 15 degrés dans la moitié sud. Mais je vous ai parlé donc de ces gelées aujourd'hui, oui. Donc c'est la moitié nord. Mais à partir de cette nuit, elles vont aussi gagner la moitié sud. Donc, ce que moralité, eh ben, mercredi matin, pas de jaloux, tout le monde sera logé à la même enseigne. On prévoit même donc moins 1 degré à Auch, seulement 3 degrés du côté de Nîmes, donc ça fera un petit peu frisquet encore avec le vent qui va continuer de faire des siennes. Par contre, côté ciel, ça sera des journées calmes, mercredi, jeudi, donc faudra en profiter. Et puis la douceur, elle va progressivement revenir à partir de vendredi, mais au prix d'une perturbation qui va concerner l'ensemble du pays jusqu'à dimanche avant des conditions beaucoup plus calmes à partir de la semaine prochaine, avec à nouveau un rafraîchissement du mercredi, mais qui devrait être quand même beaucoup moins gelée, on va dire, que celle que les gelées qu'on a actuellement. Tout simplement.
Ça bouge en tout cas jusqu'à dimanche et on a compris qu'on allait avoir des alternatives de bon froid.
Hein. Oui, voilà. Exactement.
Les choses sont claires. Merci infiniment, Claire Delorme. On va dans un instant retrouver qui ça. Vous êtes comme ça, voilà.
RTL, vous êtes comme ça.
Prenons ce matin la direction de Marseille dans un vestiaire de foot un peu particulier. Pas celui de l'Olympique de Marseille, mais celui de Jérôme Raffetto, capitaine d'une équipe de footballeurs amputés. Vous avez bien entendu, des footballeurs amputés. Une pratique handisport qui est en train de se structurer chez nous avec un tout premier championnat de France qui s'est disputé il y a 2 semaines en Haute-Savoie. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Comment continuer à vivre sa passion quand on a subi un lourd accident et donc une amputation? On vous suit Hugo pour une véritable leçon de vie offerte par ses fadas du ballon rond.
Oui, quand Billy et ses copains pénètrent sur la pelouse à cloche-pied, c'est la même étincelle dans le regard.
Ah oui, nous c'est notre sport, hein. Et le fait de pouvoir rejouer, même si c'est sur un pied, on le vit à 200%, quoi.
Alors le foot pour amputer, ça se joue à 6 contre 6 avec un gardien qui lui aussi ne peut se servir que d'un seul bras. Écoutez le capitaine Jérôme Raffetto.
Et on doit jouer en béquille. Donc on ne doit pas toucher le ballon avec les béquilles. On ne doit pas toucher le ballon avec le membre handicapé. Voilà.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez une prothèse dans la vie et que sur le terrain, vous ne les utilisez pas. Pourquoi?
Pour l'équité. Pour l'équité, par exemple, moi qui suis amputé fémoral, je serais incapable de courir après un ballon et d'aller aussi vite qu'une personne qui a amputé tibiale.
Jérôme est un ancien pro de l'AS Cannes. Le foot lui a tout donné et beaucoup repris aussi, puisque c'est sur le parking d'un stade en 2005 qu'il a été violemment percuté par une voiture alors qu'il était à pied. 10 ans plus tard, il a découvert le foot pour amputer presque par hasard.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est possible de refaire des belles choses dans le football, même sur une jambe. Donc j'ai regardé un peu des vidéos, je les ai appelés, ils m'ont dit viens essayer de suite. Cet aspect-là est très important pour la construction des enfants, de voir ce que font les adultes, d'avoir un objectif, d'aller en Coupe du Monde, d'aller en Championnat d'Europe, d'aller en championnat, de faire partie d'un club. Et je trouve que c'est important pour eux et c'est pas assez mis en avant, en tout cas en France.
Aujourd'hui, Jérôme a monté sa section à l'US Andoume, un club installé au pied de la Bonne Mer. Elle affronte les équipes de jeunes pour le plaisir d'abord et puis aussi pour changer leur regard sur le handicap.
Avec une grosse difficulté pour ces handi-footballeurs, c'est que la Fédération Française de Foot ne les reconnaît pas pour le moment. Ils ne peuvent donc bénéficier d'aucune subvention pour ces ni pour se déplacer et encore moins pour rencontrer d'autres équipes.
Oui, pour le moment, ça tient seulement grâce à la motivation de quelques personnes comme Jérôme. Mais c'est loin d'être le cas chez nos voisins européens, puisqu'une Ligue des champions pour amputés a même vu le jour il y a 3 ans.
Grâce à des pays comme la Pologne ou la Turquie qui sont largement plus avancés que nous sur ce domaine. Il y a Manchester City qui participe à la Ligue des champions, donc les clubs pro déjà s'y sont mis. C'est important que la vie de club soit représentée avec le football amputé.
Ça avance néanmoins, ça brille Gilles, directeur sportif de l'US Andoum, a même reçu le soutien de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
Ça fait plaisir parce que c'est quand même quelqu'un de très respectable. C'est un entraîneur qui a gagné le mondial au football et c'est satisfaisant qu'une personne pareille puisse nous appuyer.
Allez, on termine par un match, la section amputée contre les filles de la Marseillaise. Rencontre serrée en public, les coéquipiers de Jérôme compensent leur déficit de course par des passes et des tirs millimétrés.
Vas-y !
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, de ce match atypique ?
Bah franchement, on est très étonné. Ça va très très vite, ça joue très bien au football, en bon état d'esprit. Et on est agréablement surpris de la volonté qu'ont ces jeunes hommes.
Voilà, les équipes qui se montent aux quatre coins de la France recherchent des joueurs actuellement. C'est une manière aussi de surmonter cette terrible épreuve que peut être une amputation, puisqu'en béquille ou sur deux jambes, l'objectif reste le même, trouver un but.
Merci beaucoup Hugo Hamelin. Vous êtes comme ça à retrouver sur notre application et notre site internet rtl.fr. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. D'abord, il est 8h42. Ensuite, vous écoutez RTL. Et puis surtout, dans un instant, on va retrouver qui donc ? Eh bien, Laurent Gérard, Mademoiselle Jade et toute l'équipe.
C'est vrai.
Mais oui, c'est vrai.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 8h45. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde.
C'est Castex.
Voilà, c'est l'heure de la conférence de presse du Premier ministre.
Alors, où est-ce que j'ai foutu mes idées, moi ? Elles ne sont pas sur mon nez, elles ne sont pas dans ma poche, elles ne sont pas dans mon slip, elles ne sont pas dans ma tête.
Oui, on vous entend là, Jean Castex.
Ah, bien. Alors, on peut commencer. Qui veut poser la première question ? Ah, on me dit que Lynn Renault veut m'interroger. C'est à vous, madame.
Non, c'est pas Aline Renault, c'est Renault tout court.
Bien, alors allez-y, monsieur tout court.
Avec le petit Manu, vous avez interdit la consommation d'alcool sur la voie publique. Mmh. Mais vu que vous avez aussi un petit peu beaucoup fermé les bars, où est-ce qu'il va boire le renard ?
Monsieur tout court, en responsabilité, l'alcool favorise les rassemblements et donc la propagation du virus, sauf le gel hydroalcoolique.
Ouais, mais le gel hydroalcoolique, ça a un petit peu beaucoup de mal à passer dans le gosier, même quand je rajoute des glaçons.
Bien, ben c'est bon. Alors, une autre question. Oui, vous, monsieur ou madame, disant, je sais pas, messieurs, dames.
Monsieur, non, dame. Jacqueline Delarey de Mediapart, journaliste racisée, trans, non-binaire et non-genrée. Vous avez indiqué vouloir lever le voile sur la politique vaccinale et sortir du noir dans lequel la France se trouvait. Lever le voile et sortir du noir, vous êtes islamophobe et négrophobe, c'est une honte.
Monsieur, madame de l'arrêt, je ne sais plus, oui, les laboratoires Pfizer et Moderna sont formels. Les vaccins ne vaccinent pas contre la connerie. Je vous demanderai donc de vous isoler le plus longtemps possible. Une dernière question. Oui, jeune homme, là-bas. Bien. Jeune homme, j'ai l'impression que vous n'avez pas retrouvé vos lunettes. Hein. Philippe Bouvard d'Azur TV et Radio Luxembourg. Connaissez-vous la différence entre un virus et une bonne femme ? Il n'y en a pas. Une fois qu'on l'a attrapé, on a du mal à s'en débarrasser. Hein. Salut, Pochard.
Oui, voilà. Oh, bonjour, professeur Raoult. Oui. Vous ressemblez de plus en plus à Patrick Sébastien. Ah oui. C'est fou.
T'as raison, Pitchouvette. Mais tu sais, sous la blouse blanche du plus grand chercheur de tous les temps, il y a un cœur africain qui bat. Un cœur gros comme ça.
Vous revenez du Sénégal, c'est ça ?
Ouais. Ah. Même avec le président sénégalais m'a remis l'ordre national du Lion du Sénégal. Depuis, je rugis de plaisir. Oh
ah oui, c'est joli. Félicitations. Sur votre compte Twitter, vous avez indiqué qu'en matière de lutte contre la Covid, nous avions beaucoup à apprendre des Africains.
Ouais. Et je profite de mon passage dans la matinale au griot de RTL.
Oui.
Yves Calvi, oui. À qui j'ai ramené une belle chemise africaine imprimée.
Oh, magnifique.
Content.
Pour faire une annonce officielle.
Ah, ben alors on vous écoute, Didier Raoult.
Pendant mon voyage en Afrique, j'ai trouvé le remède miracle pour sortir de la pandémie. Je regarde à tous ceux qui sont contaminés, je demande à tous ceux qui sont contaminés de m'apporter à l'IEH de Marseille un cheveu de Jean Castex. Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Que je tremperai dans un verre de chloroquine. Avec ça, je vous guérirai du Covid, je ramènerai le trémé et je vous garantis la fortune. Comme disait le plus grand scientifique français après moi.
Louis Pasteur.
Et non, Gérard Blanchard des Martin Circus. Ah. On s'éclate au Sénégal. Allez, musique.
disque Vogue.
Ah oui.
De Joël. L'Afrique, c'est comme la chloroquine, c'est que de l'amour.
Dans la ruralité aussi, l'épidémie de coronavirus se fait sentir. Sur sa chaîne internet JPTV, dédiée à la France profonde, notre ami Jean-Pierre Pernaut est bien placé pour en rendre compte. N'est-ce pas Jean-Pierre ?
Eh oui, ma petite Jade, dans cette période délicate sur JPPTV, vous avez oublié un P, on surveille de près. On surveille de près tous les signaux qui remontent de nos régions, ces régions que nous aimons tant, et que l'on peut dire, ma petite Jade, c'est que tous les indicateurs sont au rouge.
Ah bon, à la campagne aussi ? Vous avez des exemples de ce passage au rouge, Jean-Pierre ?
Eh oui, eh bien allons par exemple à Saint-Bombel-Molin-Molette, sur le plateau des Vaches qui rient, dans le bistrot clandestin de la mère Bougnard. Depuis, eh bien depuis le reconfinement, on est passé au rouge dès 9h du matin, car il faut bien ça pour digérer les nouvelles mesures du gouvernement.
Ah bah oui, c'est un passage au rouge original. Vous pensez que le moral est en berne dans nos régions ?
Ce qui inquiète notre ruralité, ma petite Jade, c'est la multiplication des variants régionaux, ces fameux variants régionaux. Après le variant breton qui fait tousser comme un biniou, on redoute le variant tarbais qui serait transmissible par les flatulences du haricot.
Non, c'est pas possible.
Ou bien encore au variant jurassien de Saint-Claude qui s'attrape par la pipe, sans oublier le variant Cap d'Agde qui se propage, lui, lorsqu'on remet son slip.
Mais écoutez, merci pour cet horizon, Jean-Pierre.
Dans le restaurant de la mère Bougnard, il y avait Pierre-Jean Chalençon ou pas, parce que...
Absolument, il était là. Un tour d'horizon, nous disons qu'il ne serait pas complet sans un appel à nos petits maires, ces petits maires que nous aimons tant qu'ils sont importants.
Oui. Voilà, si vous insistez, bonjour monsieur le maire.
Allô les parigots. C'est Jacques Chiasseur, le maire de la Fistinière. Dites donc, faudrait voir, après nous oublier, nous autres, qu'on est en pleine saison des asperges à la Fistinière, ou que c'est une de nos spécialités, les asperges. Oui. Déjà que nos visiteurs, ils ont raté les endives et les betteraves.
Oui.
Bon, vous ne recevez pas d'aide gouvernementale, Jacques Chiasson.
Pensez-vous donc. Ces crânes d'œufs de Paris, ils viennent nous voir à la Fistinière avec leurs attestations, à cause qu'ils ont besoin d'un impérieux, comme ils disent, ils nous promettent monts et merveilles, mais au bout du compte, c'est pour eux. C'est nous qu'on a dans le fond de main.
Eh oui, bah merci beaucoup, Jacques Chiasson.
Si ça continue, on va faire une opération coup de poing. Hein.
Notre ami, désormais ami, Benjamin Castaldi, poursuit la promotion de son troisième livre de souvenirs consacré à sa grand-mère Simone Signoret, vous le savez, et au père adoptif de sa mère, Yves Montand. Bonjour Benjamin Castaldi.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, le biographe officiel de Montand et Signoret qui écrit plein de livres sur sa mamie Cocu et son papy Cotard.
Enfin, excusez-moi Frangis, Benjamin, mais vous n'avez pas très bonne mine ce matin, vous avez l'air même un peu barbouillé.
Bah oui, hier c'est le week-end de Pâques, j'ai voulu cacher des œufs en chocolat pour mes enfants, mais ils étaient tous scotchés sur leur tablette et ils n'en avaient rien à foutre. Alors c'est moi qui les ai cherchés avec ma perche à selfie et qui les ai bouffés les œufs.
Ah,
après j'ai été patraque et j'ai tout dégueulé, merci comme j'aime.
Ah, bah, très bien, bon ben, faut faire attention, même si c'est tentant le chocolat.
Mais au moins mon partenaire minceur, il ne pourra pas dire que j'ai pris du poids. J'ai dégueulé. Et puis, il m'a donné une idée d'anecdote de mon enfance pour mon prochain livre sur Montand et Signoret.
Ah bon, bah racontez-nous ça.
Oui.
Ça m'a rappelé quand mon papy Cotard, il avait caché ses œufs à Hollywood et que...
Avec Marilyn Monroe.
Il avait caché ses œufs à Hollywood et c'est Marilyn Monroe qui les avait retrouvés, ses œufs, à mon papy Cotard. Même que quand mon papy Cotard, il était rentré d'Hollywood, ma mamie Cocu, elle voulait lui casser ses œufs à mon papy Cotard.
Un bien beau souvenir, merci Benjamin Castaldi.
Excusez-moi, mais hier soir, c'est moi qui ai fini le gigot et les flageolets. Alors, en plus, je suis un peu ballonné.
Oh là 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 là. Et alors ?
Ben alors, ça fait. J'ai envie de faire comme Jean-Edouard dans la piscine du Loft.
Non.
C'est-à-dire ?
Oh bah. Oh non.
Si je continue comme ça l'année prochaine, c'est moi qui suis bon pour présenter les Césars. Hein. Voilà.
Ça fait rire les enfants, monsieur Calvi.
J'aime beaucoup quand vous me regardez comme
oui.
ça, pour essayer de me rassurer,
oui,
en fait,
c'est ça.
J'ai bien compris. Petite prise en charge. Ah là là. Alors, on vous retrouve sur le site RTL.fr, et puis demain matin, bien entendu.
Bien entendu.
Mes pensées à Jacques Chiasson.
Bah oui, bah bien sûr. Et puis on a Mamie Cotard.
Oui.
On a Papy Cotard, Mamie Cocu et Petit-Fils Prout-Prout.
Voilà. Ils ont 6 ans d'âge mental, c'est ce qui fait le charme de cette équipe. Allez, on vous embrasse fort, à demain matin.
À demain.
Et on vous retrouve sur le site RTL.fr. Ah oui, Cyril, dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Nos auditeurs vous posent leurs questions sur rtl.fr/participer. Alors c'est Marina de Montreuil en Seine-Saint-Denis qui voudrait que vous lui donniez une astuce pour réaliser un ceviche de poisson, s'il vous plaît.
Alors ça, moi j'adore ça. Est-ce que vous aimez le ceviche ?
Oui, oui, j'aime ça quand c'est bien assaisonné.
C'est vraiment, là on part vraiment en Amérique latine. Ce qui est génial, c'est que en France, on mange le carpaccio de poisson, le tartare de poisson, assaisonné avec de l'huile d'olive, voilà. Là, le ceviche, on part vraiment dans les notes acidulées, fraîches, piquantes, parfumées. Donc, c'est vrai que la première fois qu'on en mange, c'est un peu spécial, parce que les morceaux de poisson sont coupés gros.
Oui.
Comme on va faire une espèce de marinade, qu'on appelle le leche de tigre, on a besoin d'avoir du poisson coupé gros, sinon il cuit trop vite. Donc on le coupe de 1,5 cm de côté, on le mélange avec de la coriandre, de l'huile d'olive, du sel, on peut y mettre du maïs, ils mettent beaucoup du maïs croustillant ou du maïs classique.
D'accord.
Voilà. Et après on prépare notre marinade. Donc on met 250 g de céleri, une cuillère à soupe de coriandre hachée. Il y a des oignons, souvent des oignons rouges, coupés en morceaux, du gingembre, beaucoup d'ail, 5 gousses d'ail et 2 piments. Là, ça va nous faire cette espèce de marinade. Ensuite, on y ajoute le jus de citron. On laisse mariner un petit peu et on passe au chinois. Au chinois, nous, on appelle ça la passette.
Pardonnez-moi, jus de citron jaune ou vert ?
Alors, en principe, c'est du vert. Mais on peut aussi couper entre le jaune et le vert ou que du jaune.
Très bien.
Je suis pas à cheval là-dessus.
Parfait.
Et ensuite, on le passe, on ajoute de la purée de piment pour que vraiment ce soit relevé. Et là, on a notre marinade. On le glisse sur les morceaux de poisson et là, on le laisse mariner. Alors, il faut quand même le servir assez rapidement parce que ce que j'aime, c'est d'avoir le côté cuit à l'extérieur, cru à l'intérieur, très acidulé, très frais et assez piquant.
La seule chose qu'on n'ait pas encore annoncée, c'est quel type de poisson on choisit.
Ah, alors ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Alors,
il y a tout. Hein.
Naturellement, c'est du poisson blanc,
oui.
Donc de la dorade, du bar. On peut faire aussi avec du cabillaud. L'essentiel, c'est de couper assez gros. Alors, le mieux, c'est quand même la dorade et le bar, parce que ce sont des poissons à chair ferme. Et donc, ça supporte bien la marinade.
Et des cubes d'1,5 cm de côté, nous avez-vous dit.
Exactement.
Afin qu'on conserve de la mâche et une sorte de fraîcheur.
Exactement.
Voilà, je crois très honnêtement, Marina, qu'on vous a donné une excellente
ça, c'est
recette.
Une bonne recette.
Passez un bon moment en famille à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
RTL Matin. Toujours avec vous.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Un point sur l'actualité, tout de suite. Air France renflouée à hauteur de 4 milliards d'euros. Nouveau coup de pouce de l'État français. Bruxelles donne ce matin son feu vert. En échange, Arnaud Touche, la compagnie plombée par la crise sanitaire devra céder des créneaux.
Absolument, Air France va devoir céder 18 créneaux d'atterrissage et de décollage à l'aéroport d'Orly chaque jour. C'est un peu moins que les 24 demandés initialement par la Commission européenne. Mais ce n'est pas la seule contrepartie. Les bonus et les rémunérations variables des dirigeants ne seront pas payés. De plus, les niveaux de rémunération ne pourront pas être supérieurs à ceux d'avant-crise, c'est-à-dire en 2019. En revanche, il n'y a pas de nouvelle contrepartie au niveau écologique. Au total, ces 4 milliards d'euros supplémentaires se traduisent de deux manières. Tout d'abord, l'État va convertir le prêt de 3 milliards d'euros qu'il avait déjà accordé à Air France et injecter 1 milliard d'euros. Et grâce à cette prise de position, eh bien, l'État français va approcher des 30% du capital de la compagnie nationale. Il faut préparer notre redressement, a indiqué ce matin le patron d'Air France KLM. Mais par quoi passera ce redressement ? Ben Smith doit présenter une nouvelle stratégie pour le groupe rapidement au gouvernement.
Arnaud Touche, du nouveau pour les 4 millions d'usagers franciliens des transports en commun, les retards sur les RER A et B seront remboursés automatiquement si la ponctualité des trains est inférieure à 80% pendant 3 à 5 mois sur une branche. C'est ce que prévoit le nouveau contrat entre la RATP et Île-de-France Mobilité. L'heure du reconfinement a sonné. Les déplacements interrégionaux ne sont plus autorisés depuis hier soir. C'est le retour de l'école à la maison. Pendant ce temps, outre-Manche, on se prépare à un retour à la normale. Au Royaume-Uni, la moitié de la population est vaccinée. Dès lundi prochain, réouverture des commerces, des bars et des restaurants. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu à Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord, au lendemain de l'incendie vraisemblablement criminel de l'église. Une collégiale du 13e siècle classée monument historique, les dégâts sont importants.